Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bunko, le podcast qui décortique la culture manga. Je suis Pedro et aujourd'hui je suis accompagné par Max. Bonjour Max, comment ça va?
Bonjour, on se voit beaucoup en ce moment.
En ce moment on se voit beaucoup, on vient d'enregistrer un épisode de Inside et on enchaîne sur un nouveau numéro de Inside. Inside, c'est le format d'émission où nous allons à la rencontre de personnes qui font la culture manga. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personne devenue centrale au cours de ces dernières années dans le champ du manga en France. Cette personne, c'est Fausto Fasolo, fondateur et rédacteur en chef de la revue Atom, publication de référence sur le manga, mais aussi directeur artistique en charge du pôle Asie du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Bonjour Fausto, bienvenue sur Bunko.
Merci de m'inviter, je suis ravi de savoir que je suis central. Je
le dis. Tu es central dans le réseau.
Je suis comme une gare centrale, en fait. Tous les gens passent par moi. Quoi.
Tous les chemins mènent à Fausto.
Ouais, tous les chemins mènent à Fausto.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est content de pouvoir prendre le temps de discuter de ton travail autour du manga. Mmh. C'est un exercice que tu fais finalement assez peu, il me semble. Tu es une personne qui intervient régulièrement sur différents médias pour parler de cinéma et de bande dessinée japonaise. Mais tu interviens surtout comme passeur, pour reprendre un terme utilisé par Bruno Pham, directeur éditorial des éditions Akata, dans le numéro 2 d'Inside. Le passeur, c'est le spécialiste qui va chercher une information sur un auteur ou sur une œuvre et qui la transmet au public en s'effaçant au profit de cette information, au profit de l'œuvre, au profit de l'auteur. Et il me semble que tes interventions dans les médias sont souvent de cet ordre-là. Tu viens en tant que journaliste pour parler d'œuvres et d'auteurs, et plus rarement pour parler de ton travail en tant que tel, voire même de parler de toi. La seule fois où je t'ai vu parler de la création de la revue Atom, c'était sur la chaîne YouTube des éditions Mangetsu, dans l'épisode 6 de l'émission appelée Tsukimi. J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à aller regarder cette vidéo très intéressante. Ce que nous aimerions faire dans ce numéro, c'est de parler justement de ce travail de passeur que tu effectues. Comment tu réalises ce travail à la fois journalistique avec Atom, mais peut-être un petit peu plus organisationnel avec le Festival International de la Bande Dessinée? Si tu veux bien, on te propose d'amorcer cette discussion en allant un peu plus creuser sur les origines de tes deux passions, le cinéma et le manga.
Avec plaisir. En tout cas, la définition de passeur, elle me convient parfaitement. Enfin, bon, c'est un rôle dans lequel je suis à l'aise. Déjà parce que mes référents et mes références sont des passeurs aussi. Quelqu'un comme Jean-Pierre Dionnet est effectivement un des passeurs les plus célèbres de la culture populaire. Et voilà, sans me comparer à Jean-Pierre, qui en plus est un homme absolument charmant avec lequel j'ai la chance de travailler parfois, c'est vrai que c'est typiquement le genre de personnalité et de mission qui me convient parfaitement et que voilà, j'essaye de faire humblement. Pour commencer un peu à répondre à ta question par rapport à la naissance de mes deux passions. Mmh. C'est vrai que les premières fois où j'ai écrit, c'était dans des fanzines papier. Un fanzine qui s'appelait Suspiria, si je ne m'abuse. Je ne sais plus trop ce que j'avais écrit, mais c'était il y a très longtemps. Très longtemps. Il y a peut-être au moins 30 ans, je pense. Mmh.
Donc sur le cinéma, au départ.
Ouais, sur le cinéma. Mmh. Et ensuite, j'ai été un peu absorbé par le phénomène des forums. Donc j'ai beaucoup fréquenté un forum de cinéma fantastique qui s'appelait devildead.com, sur lequel j'étais assez actif. Il y avait plus actif que moi évidemment, mais en tout cas pour un profil un peu esselé de fan de cinéma en province, qui plus est dans une région où culturellement c'est un peu compliqué de trouver des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. J'étais donc sur la Côte d'Azur, à Nice plus précisément. C'est vrai que les forums et celui-ci en particulier c'est vraiment imposé comme une sorte d'espace de liberté et d'échange génial, quoi.
Tu avais quel âge quand tu commençais à fréquenter ces forums? T'étais ado?
Non, j'étais jeune adulte. J'avais quoi, 19 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc en fait, pour éviter de digresser, puisque je me suis juré en off de ne pas digresser, et là je vois que je commence un peu à digresser, donc pardon. Mais bon, c'est un peu le parcours classique, c'est-à-dire que je suis issu d'une famille nombreuse, donc très naturellement, en étant le dernier, quand on a des frères et sœurs au-dessus de nous, eh bien, il y a des choses qui circulent. Et c'est vrai que les premières choses qui ont circulé chez moi, c'était les films. Alors, j'avais pas des frères particulièrement cinéphiles, hein. Simplement, je me mettais à regarder un peu les mêmes choses qu'eux, et voilà, il y avait des vidéos qui arrivaient à la maison, qui avaient été prises dans des vidéoclubs de quartier. Et donc, voilà, moi, je tombais sur des vidéos qui avaient été louées, des films qui avaient été loués pour l'occasion. Et il s'avère que ces films étaient des films de genre, des films d'horreur, et entre autres. Et du coup, j'ai été naturellement.
T'étais happé là-dedans.
Oui, voilà, ça m'a très rapidement parlé. J'ai jamais changé, c'est toujours un cinéma qui me passionne profondément et vers lequel j'aime me tourner régulièrement, évidemment. Et voilà, donc moi j'aimais, puis j'aimais cette espèce aussi d'adrénaline. Mm-hmm. Il n'y avait aucune restriction particulière chez moi concernant le fait de regarder tel ou tel programme. Donc,
Mais parce que tu découvres très tôt, en fait, le cinéma de genre.
Ouais. Mais c'est assez classique, hein. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, c'est une configuration de vie en fait qu'on retrouve dans le parcours de nombreux cinéphiles. Donc oui, après c'est voilà, tu vois Mad Max 2 quand t'as 8 ans. J'avais d'autres potes à l'école qui avaient vu aussi ce type de cinéma-là parce que le père ou le grand frère avait la cassette vidéo ou il l'avait vu lors d'une diffusion qui était passée sur France 2, je crois, Mad Max 2. Et voilà. Enregistre le film, on le regarde en deuxième ou troisième partie de soirée, et puis après on parle le lendemain dans la cour.
Mais est-ce que ça fait que tu te sens aussi un petit peu en décalage après par rapport au goût des enfants de ton âge à l'école?
Alors, je sais pas, parce qu'en fait, en vrai, j'ai à l'école primaire, j'ai quand même toujours trouvé un ou deux camarades. Après, j'ai pas fait de sondage dans la classe, mais
ouais.
Effectivement, on était quand même plutôt minoritaire, mais il y avait quand même deux trois fêlés qui aimaient les mêmes trucs que toi et qui avaient regardé aussi New York 97 la veille. Mmh. Ou puis bon. Mmh. Alors après, les échanges étaient quand même très très superficiels, puisque quand on reçoit ce type de film-là à cet âge-là, en vérité, c'est une sensation qui est purement viscérale, quoi. On n'a pas de distance, on ne sait pas qui vraiment a réalisé le film. On a vaguement une idée des comédiens. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'histoire et les images qu'on a vues. Moi, de Mad Max 2, par exemple, ce que je retiens, c'est des images, des sensations. Et voilà. Puis après, tu découvres plus ou moins dans la foulée ou tu l'as découvert au même moment qu'elle le survivant. Ça passe comme ça. Club Dorothée, tu sais pas trop ce que tu regardes, tiens, c'est une ère post-apocalyptique, un peu jumeau. Tu fais pas vraiment de lien, mais en même temps, il y a une espèce comme ça d'iconographie que tu retrouves. Et puis ça te travaille sans que tu en sois vraiment conscient, en fait, en réalité. Et puis après, c'est quand tu commences à ne plus parler que de ça, que tu finis par dire, ah tiens, en fait, ça m'intéresse vraiment. Tiens, c'est marrant, je dès que je vois mes amis, j'en parle, je rentre à la maison, ça me retravaille, j'ai envie de revoir, j'ai envie de relire. C'est là, en fait, que tu sens qu'il y a la naissance d'une passion.
Tu parlais de Ken le survivant, est-ce que c'est ça ton premier contact avec la pop culture japonaise? C'est plutôt sous la forme d'animation avec...
Oui, complètement. Ah ouais, c'est vraiment les dessins animés. C'est le parcours classique de ce qu'on appelle la génération Club Dorothée.
Exactement.
Dire quoi. Je crois que la vraie naissance, en fait, enfin la première fois que j'ai vu une production animée japonaise, c'était Goldorak et c'était une cassette vidéo que j'avais louée au vidéoclub. Et ça, c'est vraiment le premier truc. Une cassette vidéo qui compilait deux ou trois épisodes, je suis plus trop certain. Et ça, c'était vraiment la première fois que je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est pas comme les autres dessins animés que je peux voir, que j'avais pas identifié comme étant non japonais. Mm-hmm. Parce qu'en fait,
tu sais pas,
c'est pas trop, quoi.
Ouais.
Et puis après, oui, on est happé parce qu'on voit bien que le spectacle qu'on nous propose est différent, que ça va vite, que c'est violent, que c'est sexy, et que c'était exactement tout ce que j'avais envie de voir à cet âge-là, quoi, en fait. J'avais envie de voir des choses violentes, des choses sexy, et j'avais envie d'être un peu bousculé, troublé, tiens, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les gamins, c'est ce qu'ils recherchent, au fond. Enfin, je veux dire, c'est ça.
Et alors, tu parles de génération Club Dorothée, on est plus ou moins tous de la même génération.
On est dans les années 80, n'est-ce pas,
c'est ça. Des années 80. Dans Bunko, on utilise parfois le terme de trinité pour désigner trois passions communes autour du Japon, qu'on observait souvent chez les gens justement de cette génération 80-90. Et ces trois passions, on estime que c'est le manga, l'animation japonaise et aussi le jeu vidéo japonais.
Oui, c'est complètement ça.
Et on se demandait aussi si au-delà du manga animation japonaise, tu étais tombé aussi dans la...
Complètement, dans le jeu vidéo, ouais. Complètement. Complètement, et en plus de manière très spécifique dans le jeu vidéo japonais, et dans les imports. Et en fait... je ne suis plus du tout aujourd'hui, mais alors plus du tout, j'ai complètement lâché, j'ai encore des consoles, je suis vraiment un piètre gamer, quoi. Mais très tôt, le jeu vidéo m'a intéressé, et par ailleurs, très tôt, j'ai caressé l'idée de travailler dans la presse jeux vidéo. Et en fait, j'ai croisé sur un plateau Click TV, pour ne pas le citer, Alain Huyghe-Lacour, donc Monsieur Console Plus, il y a quelques mois. Mm-hmm. Et en fait, j'ai eu une réaction que je ne pensais pas avoir, en vérité, c'est que j'ai eu une vraie réaction de fanboy, en fait. Et je lui ai dit, mais voilà, moi aujourd'hui, Je travaillais chez Mad Movies, je ne vais pas du tout parler d'Adobe, j'ai travaillé chez Mad Movies depuis quasiment 20 ans, en fait, et à vrai dire, c'est en lisant qu'on soit plus que j'ai envie d'écrire, quoi. Mmh. Et en fait, en plus, il y avait une sorte de fantasme qui était partagé par de nombreuses personnes qui jouaient aux jeux vidéo à l'époque, hein, fantasme du testeur de jeux, on sort les jeux.
Ah oui, bien sûr, c'était une figure très...
Voilà, complètement, puis moi je voyais aussi, et puis en plus Console Plus, je sais pas si vous vous souvenez aussi...
Moi j'étais un gros lecteur de Console Plus.
Voilà, mais il y avait une grande partie qui était consacrée à l'import, et donc du coup c'était quelque chose qui me parlait, et je me souviens, bah, ce fantasme qu'ont eu énormément de personnes qui s'intéressaient aux jeux vidéo à l'époque, et qui plus est aux jeux vidéo japonais, c'était le fantasme de la Neo Geo. Et moi, je me rappelle aller dans les rayons de la Fnac à Nice et fantasmer sur ces gigantesques cartouches, regarder les prix derrière, halluciner. Enfin, il y avait quelque chose de parfaitement inaccessible, d'un peu exotique aussi. Et c'est vrai que le jeu vidéo m'a vraiment intéressé. J'ai commencé à acheter des jeux vidéo import à l'époque de la Super Nintendo. Donc voilà, j'avais un adaptateur. Enfin, tout.
Tu jouais à des JRPG.
Alors, pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été fasciné par l'esthétique des jaquettes des RPG. En revanche, ça n'a jamais été trop mon truc. Et je sais que, pour le coup, quand on parle de jeux vidéo japonais, c'est vraiment le point sur lequel on atterrit, fatalement. Mais en fait, là, moi, il y avait quelque chose dans le déroulement de ces jeux qui m'excitait assez peu, en vérité. Mais j'étais toujours très sensible à leur esthétique et, à vrai dire, je me contentais de très peu. C'est-à-dire que je voyais une cartouche, une boîte, une jaquette d'un jeu vidéo encore avec des idéogrammes et j'étais déjà en train de frétiller, en vérité.
Ce qui, en fait, fait du sens parce que c'est vraiment, tu vois, il y a cette esthétique, culture japonaise qu'on retrouve à la fois dans l'animation et le manga.
Bien
et
sûr.
C'est
ouais.
Ça, en fait,
bien
sûr. Tu es dit, ben, beaucoup. Et qui nous séduisait, je pense, tous, parce
bien
que
bien
c'était ce dessin de l'époque. C'est marrant que tu parles de Console Plus, parce que il y avait aussi des incursions du manga, ou de manière générale de la bande dessinée japonaise, dans cette revue où parfois ils en parlaient. Il y avait des pages un petit peu liées
à
l'animation. Moi, je me souviens qu'il y avait même cette BD d'Hong Kong, Cyber Weapon Z. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient aussi, en fait, Tonkam publié en fascicule, en complément de Console Plus. Donner cette bande dessinée sous forme épisodique et donc que tu pouvais suivre avec chaque numéro de Console Plus. Donc tu voyais vraiment la collusion un petit peu entre ces passions qui s'opéraient.
Tu avais ça dans Player One aussi, avec la collection Manga Player.
Exactement,
donc,
la fameuse.
Donc non, mais c'était le jeu vidéo a été hyper important et puis j'ai commencé à. J'ai essayé d'acheter des jeux import. Ensuite, j'ai. Tout un système de revente à l'époque dans les boutiques. Et puis surtout, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc en fait, quand on voulait parler de sa passion, que ce soit le manga, l'animation ou les jeux vidéo, le seul endroit où on pouvait en parler, c'était dans les boutiques spécialisées. En fait, il s'avère que ces boutiques spécialisées dans l'import avaient souvent du manga, faisaient souvent du manga. En tout cas, c'était le cas à Nice. Il y avait une boutique, par exemple, qui s'appelait Fan Japan, qui était une boutique qui, effectivement, je me souviens. Moi, je l'ai beaucoup fréquenté à l'époque de la Nintendo 64, donc où ils avaient des Nintendo 64 japonaises, tout ça, etc. Et eux, ils vendaient du Laserdisc, donc qui a été pendant très longtemps aussi genre l'un des grâles de la culture animée, et notamment de tous ceux qui s'intéressaient aux imports et au Japon. Et ils vendaient aussi du manga et des VHS, etc. Donc en fait, il y avait une sorte de bouillon de culture dans ces boutiques. On retrouvait des gens qui étaient, en ce qui me concerne, souvent plus âgés que moi, avec lesquels on pouvait échanger, on pouvait discuter. Il y en a certains qui étaient déjà partis au Japon, tout ça, etc. Donc, on est dans les années 90, et là, c'est vrai qu'on les regardait un petit peu de manière envieuse, j'ai envie de dire, parce que c'était une destination qui était quand même beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui partait au Japon au début des années 90, pas quelqu'un qui part au Japon en 2023, hein, clairement pas. Et c'est vrai que tout ça, bah, ça a forcément forgé mes centres d'intérêt, et puis en parallèle, j'ai aussi été initié par un ami au cinéma de Hong Kong, donc j'achetais la revue HK vidéo de Christophe Gans. Voilà, je lisais Mad Movies aussi en parallèle depuis le collège. Voilà.
Et en parlant justement de revues, dans ton entretien avec Sullivan, des sur Mangetsu, donc le Tsukimi dont parlait Pedro, tu disais être un lecteur du magazine Kamea.
Ah oui, bien sûr, ouais, Kamea, ouais, tout à fait.
Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, le magazine Kamea, c'est un magazine de prépublication qui était édité par Glénat entre 1994 et 1998, où on retrouvait à la fois du manga et du contenu éditorial.
Ouais. Des pages cinéma aussi.
Et des pages cinéma.
Il y avait des articles sur Turné, Killing Zoe, ce genre de choses.
Voilà, bah, ma question c'était quel souvenir tu en gardes aussi de
ça. Bah, j'en ai un souvenir incroyable. Je me souviens très très clairement de comment et quand j'ai acheté le premier numéro. Donc, moi je suis originaire de Nice, je me souviens, j'étais monté à Paris pour voir mon père à l'époque. Je me rappelle avoir acheté le numéro 1 à ce moment-là. Enfin, on l'a acheté, je ne l'ai pas acheté moi. Enfin, je l'ai réclamé, on va dire, plutôt. Et j'avais 11 ans, et oui, je suis pris une claque, je découvre les planches de Crying Freeman, et c'est très marrant, parce que cette année, justement, quand on a remis, quand il y a eu la remise de prix au Festival d'Angoulême, donc on a remis un Fauve d'honneur à Ryoichi Ikegami, et je me suis permis, de manière un peu égocentrée, d'évoquer cet épisode-là en disant, bah, tiens, c'est très drôle, parce qu'en fait, voilà, en 94, j'achetais une sorte de revue de prépublication qui ne disait pas encore son nom à l'époque, dans laquelle était publié Crying Freeman de Ryoichi Ikegami, et son dessin m'avait complètement pulvérisé, et bah, là, aujourd'hui, il est à quelques mètres de moi, et je vais lui mettre un prix, c'est assez hallucinant, véritablement. Mais c'était une revue que j'adorais vraiment. Et très vite, en plus, ce qui m'a intéressé, c'est que, en fait, on me racontait des histoires pour adultes. Donc, qui ne m'étaient pas à proprement parler destinées. Et en fait, c'est enfant et ado plutôt, pour respecter l'ordre, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. C'est-à-dire, lire à l'origine des histoires qui ne m'étaient pas adressées, en fait, en réalité.
Ce que tu pratiquais déjà un peu avec le cinéma. Ouais.
Ouais. J'ai lu, Dragon Ball, ce genre de choses, etc. Mais en fait, j'ai toujours préféré les histoires plus adultes. J'ai toujours préféré Crying Freeman Dragon Ball, par exemple. Enfin, ça me parlait plus. Je préférais.
Même à la grande époque.
Même à la grande. Mais c'est une pure question d'affinité. Ouais. En fait, je parle même pas. Là, c'est même pas en termes de qualité de dessin ou en termes de qualité d'histoire. Voilà, c'est de la stricte affinité pure et d'affect, quoi. J'étais beaucoup plus captivé par cette histoire de triade et de yakuza que par l'histoire de Dragon Ball. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Mais ça, c'est comme ça, c'est moi, quoi.
Ouais, c'est beau.
Ouais, complètement.
Mais tu as mis le point sur, je pense, deux modes de socialisation très importantes dans ces années, fin des années 80, début des années 90, qui sont la boutique de jeux vidéo, c'est vraiment là où on peut commencer à se façonner une culture, et la presse spécialisée.
Ouais.
Donc, pour toi, c'est la presse spécialisée, tu l'as dit, sur le cinéma,
ouais.
Sur le jeu vidéo et sur le manga.
Ouais. Oui, je lisais aussi Anime Land, hein. J'achetais Anime Land et tout ça. Aussi Anime Land. Ouais, évidemment, Anime Land. Enfin,
Et donc, mais pour autant, au moment où tu passes le bac, il faut t'orienter dans un parcours scolaire professionnel. Tu choisis pas la voie du journalisme.
Je voulais faire du cinéma, moi.
Toi, tu choisis vraiment la voie de faire du cinéma. Sauf erreur, c'est vraiment l'écriture scénaristique qui t'intéressait initialement.
Ouais, ouais.
Et donc, tu t'inscris à l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle à Nice.
Ouais.
Mais tu en ressors très déçu.
Ouais. Bah, je vais pas au bout déjà.
Ouais, tu vas pas au bout.
Je fais un an. Je fais un an parce que, si on veut faire des études de cinéma, il n'y a pas mille et une possibilités. C'est soit on va dans une école privée, donc extrêmement chère, elles le sont toujours, ce qui demande énormément de sacrifices, surtout du côté des parents, et puis aussi du côté des futurs étudiants, parce que ça veut dire, bon, bah, il faut faire un petit job, il faut avoir un petit job pour pouvoir payer les frais de scolarité qui sont vraiment toujours très élevés. Soit on décide de rejoindre une faculté, et d'attendre Bac plus 2 et de tenter le concours de la FEMIS. Vu que j'étais hyper pressé, j'avais pas du tout envie de tenter le concours de la FEMIS, qui en plus m'effrayait. Enfin, je pensais être pas du tout capable d'y parvenir. C'est vrai que c'est un concours qui est très très dur. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui y arrivent. Donc je me suis dit, tiens, cette école, en plus elle est à Nice, je vis à Nice. Bon, c'est quand même, c'est un peu la facilité, mais bon, pourquoi pas. Il y avait quelques personnes qui avaient fait cette école-là et qui avaient pu ensuite faire carrière. Mais oui, ça a été la douche froide totale, parce qu'en fait, je me suis retrouvé avec des camarades qui étaient beaucoup moins passionnés que moi, et je dis pas du tout ça de manière méprisante, hein, c'est juste que moi, je respirais littéralement cinéma, c'est-à-dire que j'y pensais tous les jours, j'avais vraiment envie de faire des choses. Et eux, pour certains, ils étaient un peu là, entre le « parce que c'est sympa, le monde du cinéma », ou un peu par accident, ou un peu parce que les parents ont du blé, et bon, faut bien les mettre quelque part, et ah, tiens, apparemment, ils ont un attrait un peu marqué pour ça. Et...
C'est un peu un cliché qu'on a parfois avec les écoles de cinéma, c'est que c'est les écoles un petit peu d'enfants bourgeois,
Oh, c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça.
Non, mais vraiment.
C'est ça. Moi, je l'ai vu.
Et qui ont pas forcément aussi une culture un petit peu comme la tienne, où tu t'es quand même constitué une culture de diggers, quoi. Tu vas aller creuser des choses qui sont pas forcément les choses les plus évidentes.
Ouais. Bah, en fait, à un moment, c'est vrai. C'est complètement ça. Hein. Moi, je me souviens. Puis c'est très drôle parce qu'en fait, selon les promotions, enfin, les promotions en fait sont la caisse de résonance de la mode ciné de l'époque. Donc, en fait, selon les promos, il y a des cinéastes qui sont considérés comme des dieux vivants, etc. Et c'est marrant. C'était qui à mon époque dont ils n'arrêtaient pas de parler. Ils étaient pas mal sur Fincher, qui est un cinéaste que j'adore hein, par ailleurs évidemment. Mmh. Mais ouais, c'est assez marrant. Et je me souviens en cours d'année, j'ai un moment j'avais capté une conversation avec des gars qui parlaient d'Argento et tout ça, et de cinéma populaire italien. Et eux, ils étaient en deuxième année, je crois. Ils me disaient, putain, mais il y a quand même des gens comme ça aussi ici. Mince, pourquoi ils sont pas dans ma classe? C'est vraiment dommage. et voilà. Après, ça a été. J'ai quand même eu un professeur de mise en scène qui par ailleurs était aussi professeur d'histoire du cinéma, et histoire de la bande dessinée, si je ne m'abuse. Mais moi, je ne suivais pas des cours d'histoire de la bande dessinée. C'était pour la partie animation de l'école. Et qui était vraiment un Cyril Laverger, pour le nommer, qui était vraiment un mec passionnant, hyper ouvert, très cultivé. Et c'était vraiment un vrai plaisir que de l'écouter et d'échanger avec lui. Mais c'est vrai que globalement, de manière strictement opérationnelle, sur ce que j'ai appris et sur ce que j'ai fait à cette école-là, je suis sorti un peu fatigué et un peu miné moralement, parce que c'est vrai que quand t'as à peine 18 ans et que tu pars comme ça à la fleur au fusil dans ce type d'école-là, qui demande quand même des sacrifices d'un point de vue matériel, et qu'en définitive tu atterris avec des gens qui sont pas hyper motivés et que l'enseignement est pas toujours ce à quoi tu pouvais t'attendre, bah c'est quand tu t'avoues en fait que t'as fait fausse route, enfin ouais. En tout cas que non pas que le cinéma n'est plus ta passion, mais que l'endroit où tu es n'est peut-être pas le bon, c'est un peu difficile.
Bon, t'as quand même une capacité de un petit peu de réflexivité sur ta trajectoire qui se fait assez rapidement, parce que tu la quittes assez rapidement l'école, non?
Ouais, quand je fais des sandwichs pour le tournage de fin d'année, où je me dis qu'est-ce que je fais en fait. Moi, je suis en train de faire de tartiner des sandwichs jambon beurre. Quel est l'objet de la mission, là? En fait, qu'est-ce que, je comprenais pas, en fait. Je me suis dit, tiens, bon, ok, je suis, donc, soi-disant producteur, donc, ouais. Je fais la régie, machin et tout. En fait, franchement, je sais pas ce que je foutais là. Je me suis dit, mais t'es dans la cuisine de ta mère, en train de faire des sandwichs triangles pour le lendemain, ouais. Pour le tournage. Mais en fait, ça arrive à quoi, enfin?
Ouais. Bon. Donc, tu quittes l'ESRA.
Ouais.
Et, bon, rétrospectivement, ce sera, une des meilleures décisions peut-être que tu as
prises. Je sais pas. Quand j'ai vu ce que sont devenues certaines personnes qui étaient avec moi à l'école, ouais, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise décision. Ouais.
Mm-hmm. Et comment ça
c'était peut-être pas une mauvaise décision.
Comment se passe la transition entre le moment où tu quittes l'ESRA?
Pas bien du tout, parce que en fait, du coup, je sais pas trop où aller et je veux continuer quand même dans une voie de type artistique, c'est-à-dire plutôt dans l'apprentissage de l'histoire de l'art et ce genre de choses. Et donc je vais dans une section à la fac à Nice qui s'appelle ACL Art Communication Langage, qui était une des rares sections qui m'intéressait. C'est qu'elle laissait la possibilité aux étudiants de faire un stage en entreprise en deuxième année, ce qui était assez rare en fait à l'université à l'époque. Enfin en tout cas en fac de lettres c'était assez rare.
En licence c'est rare.
Ouais. Et du coup je vais donc dans cette fac, la fac de lettres à Nice, et franchement c'est un calvaire quoi. Je me reconnais pas du tout dans ce milieu, je n'aime pas du tout les gens, je trouve ça insalubre, mais horrible. Et les cours, je trouve ça, je sais pas, les cours de PNL, rien à voir avec le groupe, hein, mais
oui, tu avais dit ça dans le dans l'interview, ouais. Ça m'a fait marrer parce que j'ai eu un cours de PNL une fois dans ma vie.
Mais
il faut
cette discipline, faut le vivre. Existe-t-elle encore ou pas?
Je ne sais pas.
A-t-elle encore le vent en poupe?
Je ne sais pas. Mais le simple fait que ce soit proposé encore dans des formations universitaires, je trouve ça problématique, ouais. En fait, parce que t'as vraiment l'impression de tomber dans une secte un petit peu.
Bah, alors c'est intéressant que tu parles de secte, parce que cette section ACL en fait était une section qui avait été créée par un couple, donc deux enseignants, donc qui étaient en couple, qui étaient très, comment dirais-je, gourouisants. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'était un peu un état dans l'état. Mm-hmm. Et donc, du coup, le programme était un peu bizarre. Il y avait du montage, il y avait de l'histoire de l'art, il y avait de la PNL.
Donc, on rappelle peut-être juste pour les auditrices et les auditeurs qui ne savent pas du tout ce que c'est la PNL.
Programmation neurolinguistique.
C'est une manière de communiquer qui est utilisée parfois en entreprise. Il y a des cours.
Juste en aparté, en tant que psychologue, je peux dire que c'est qu'on n'aime pas trop
Ah oui,
le PNL.
ah bah c'est intéressant, c'est intéressant de savoir.
Dans la partie psychologue clinique, clinicien, on n'est pas très fan
D'accord,
de
ah,
cette
c'est marrant. Ah bah, c'est rassurant.
Ouais.
Et donc, tu es dans cette fac,
ouais.
Et dans ce programme qui te oblige en quelque sorte à avoir un stage professionnel en fin de deuxième
ouais,
année.
Ouais, ouais.
Et c'est là que tu fais ton petit commerce, tu t'envoies tes CV.
Ouais, ouais.
En fait, je passe des coups de fil, en fait, en vrai, parce que j'ai aucun CV et j'ai aucune. Voilà. À l'époque, on pouvait plus facilement joindre les gens. Enfin, il y avait des numéros dans certaines entreprises. Aujourd'hui, parfois, ça tend un peu à disparaître. Il y a une sorte de mail contact et tout.
Ça.
Bon, à l'époque, il y avait encore parfois des numéros de téléphone, donc je passe quelques coups de fil. Enfin, j'ai ciblé trois boîtes. Je crois que je l'avais peut-être dit d'ailleurs chez Sullivan, mais
Oui.
j'avais ciblé une boîte d'édition vidéo qui s'appelait Wildside, parce que j'étais donc cinéphile et donc très gros consommateur d'édition vidéo. Donc, j'étais trop jeune pour être dans l'achat de VHS, j'étais plutôt dans la location. En revanche, quand le support DVD est sorti, j'étais à fond, quoi. Mais complètement fou furieux et des imports aussi, notamment pas d'import japonais, parce que le problème des imports japonais, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres
Et pas de
anglais.
sous-titres,
Ouais, donc ça, c'était un peu. Et puis surtout, le support vidéo est très, très, très cher et c'est difficile à trouver. Mais en revanche, j'ai acheté beaucoup d'imports américains, d'imports anglais. Peu d'import italien et donc du coup cette société cette structure donc Whiteside j'ai contacté son fondateur Manuel Chiche. J'ai aussi contacté le rédacteur en chef et fondateur de la revue Brasil qui était une revue de cinéma à l'époque que je lisais et le rédacteur en chef de Mad Movies. Donc j'ai eu une réponse de Wildside me disant qu'il cherchait pas de stagiaire, mais il m'avait répondu. Brasil, j'avais pas eu de réponse. Et Mad Movies, j'ai pu avoir le rédacteur en chef au téléphone. Et c'est comme ça que j'ai pu ensuite faire mon stage.
Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, tu ne penses pas du tout faire de stage dans le journalisme, mais hors cinéma. Par exemple, Animeland, ça c'est pas quelque chose qui va te botter. Est-ce que
Non, parce que c'était un peu passé. Là, ma passion pour le cinéma
elle prend le dessus,
elle
non?
prend largement le dessus.
Ouais,
Elle
c'est
prend
ça.
largement le dessus.
C'est pas uniquement lié au fait que à ce moment-là, je pense qu'on arrive aussi moins à s'imaginer des champs des possibles en termes professionnels dans le manga ou dans l'animation. C'est pas juste ça.
Ouais, c'est pas du tout la même. En plus, c'était pas du tout la même industrie
C'est
qu'aujourd'hui.
ça, en fait.
Donc, et puis surtout, le parent riche de la réflexion critique, ça a toujours été le cinéma, en fait. Donc, moi, j'ai été beaucoup plus stimulé par ça. Il n'y a pas de critique animation, il n'y a pas de critique manga. Encore aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, il y a des voix qui existent, évidemment, mais il n'y a pas de réflexion
Non, non.
structurée qui s'est imposée sur la durée, des courants de pensée. Il y a
Non.
des experts Twitter, voilà, des gens qui prennent la parole sur Twitter, qui font un thread de 200 signes et qui pensent avoir accouché d'une réflexion absolument sidérante. Mais il n'y a rien d'autre. Non, mais en vrai, c'est ça.
Bien sûr, c'est ça.
Et donc, moi, à l'époque, forcément, c'est ce que j'ai envie de lire, c'est des papiers de fond, des choses longues, et puis genre. Je ne sais pas du tout si je suis capable d'en écrire, évidemment, mais j'ai envie de travailler dans une rédaction qui propose ça, en tout cas.
Et donc, tu intègres cette rédaction de Manouvise en tant que stagiaire.
Ouais.
Tu montes à Paris en décembre
Ouais.
2003.
Ouais.
Tu as 20 ans.
Ouais.
Bon, on imagine qu'au-delà du job en lui-même, qui évidemment te ravit, enfin, ça fait quoi d'arriver à Paris à 20 ans?
Bon, moi, je suis content d'être là. En
C'est
fait,
une claque culturelle ou pas?
ouais, bah oui, complètement. Bah oui. Tu regardes l'officiel des loisirs. Tu regardes les séances qu'il y a de cinéma, et puis je dis, ah, il y a tout ça
Il y
qui
a tout
passe.
ça,
Ah, c'est pas mal, effectivement, tiens.
ouais.
Et puis après, des années après, tu te rends même plus compte de la profusion de propositions qu'il y a ici, mais non, non, bah, c'est super. Je vais dans les librairies spécialisées cinéma, je vais dans des boutiques spécialisées DVD, j'ai Albom, qui était quand même
C'était
une
vrai.
vraie mec, quoi.
Ouais.
Qui maintenant est momie.
Oui, maintenant
Ça a changé.
ça a beaucoup changé effectivement et puis je découvre aussi les librairies d'occasion etc. Alors après moi c'est vrai que pour le coup Nice a toujours été bien servi en librairie manga puisque historiquement Nice est la deuxième ville après Paris à avoir eu une librairie spécialisée manga en l'occurrence Akira & Co. qui était rue Pertinax à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, mais qui a été déplacée, et juste dans la rue d'à côté. Et Akira & Co, c'était une boutique très très importante pour moi. Donc j'avais eu déjà l'habitude des boutiques un peu intéressantes et avec des clients parfois très cool avec qui on pouvait échanger. Mais là, c'est vrai qu'à Paris, là, le champ des possibles était complètement dingue. Et moi, j'étais très content d'être là. J'étais très content de voir comment fonctionnait une rédaction, en fait, et puis surtout de rencontrer les gens qui y écrivaient. C'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup, et encore aujourd'hui, je porte beaucoup d'intérêt à la signature. Je regarde qui écrit un article, j'aime bien savoir d'où la personne parle, d'où elle pense. Et après, j'imagine que c'est comme vous lisez une personne, et puis le jour où vous la rencontrez, ça vous fait quand même quelque chose, sans être, je parle même pas de fanboyisme ou quoi que ce soit.
Bien sûr.
Voilà, tiens, c'est marrant d'avoir par exemple adhéré à la réflexion de quelqu'un et puis après ensuite le rencontrer. Ah bah tiens, c'est sympa. Et puis,
bien sûr.
Voilà, donc,
plus que fanboyisme, je pense qu'on pourrait dire intérêt intellectuel.
Oui, bien sûr. Ouais. Moi j'étais un peu fanboy encore à l'époque, hein, tu vois. Genre j'avais
Oh, t'avais 20 ans,
voilà. Et,
oui.
Et tu sors aussi de cette culture de la presse des années 90 où en fait on attache beaucoup d'importance à la signature. Tu parlais de Console Plus. En plus, on suit des testeurs.
Ah, ben bien sûr. Ouais.
Chacun a sa petite illustration, à son effigie. Ouais. Donc,
complètement.
On suit ces personnes-là. On est presque. On n'est pas forcément fan, mais on est.
Ouais, on les suit.
D'une certaine manière, on est quand même admiratif parce qu'ils font le travail qu'on aimerait faire.
Ouais, puis on attend aussi leur prochain avis. On se dit, tiens, comment ils vont recevoir tel ou tel jeu. Moi, je me souviens, en plus, ça me faisait beaucoup marrer. Il y avait une rubrique qui s'appelait la rubrique de The Killer. Donc, c'était un journaliste qui, sous le pseudo, en fait, défonçait tous les jeux vidéo, machin, prenait le pire bouse, et il les explosait, etc. Et il y avait un peu ça dans Mad Movies d'une certaine façon, avec le pseudonyme de Sam Elving au début, dans les notes lunaires, tout ça, etc. Donc, en fait, j'ai toujours trouvé, mais je m'en suis rendu compte bien plus tard, qu'il y avait une sorte d'atome crochu entre Console Plus et Mad Movies. J'ai toujours trouvé que, tiens, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus méchant, un peu plus ironique, un peu plus drôle, voilà, quelque chose de une sorte de ton auquel j'étais sensible. Ouais.
Et c'est en 2004, quelques mois après que tu commences ton stage, qu'on te propose d'intégrer de façon durable la rédaction de Mad Movies. Deux ans après, tu deviens un rédacteur en chef.
Ça, c'est vraiment l'ascenseur social. Hein.
Ouais,
toute sa splendeur.
À 23 ans.
C'est soit un putsch, soit un ascenseur social. Ou soit j'ai couché, mais bon.
Et là, on se dit, quand même, ça doit être assez fou de se dire qu'en si peu de temps, tu passes d'un étudiant qui est un peu perdu dans la voie qu'il veut prendre CDI chez Mad Movies, puis deux ans après, directement.
CDI, mais pas hyper bien payé non plus. Mais CDI quand même.
CDI quand même.
Mais oui, forcément, en plus, ça a fait chier plein de gens, hein, parce que naturellement, quand tu débarques comme ça, t'as 20 ans, à 22 ans, t'es rédacteur en chef, naturellement, il y a qui sont là depuis 10 ou 15 ans, mais c'est qui ce mec?
Parce que même avant que tu deviennes rédacteur en chef, ta première position, c'est...
Ouais, j'étais secrétaire de rédaction.
Même ça, en fait, comment, je veux dire, les gens qui écrivent dans Mad, ils sont plus âgés que toi
à
ce moment-là. Ouais. Et,
c'est pas pour autant qu'ils écrivent mieux, parfois.
Alors, je veux dire, le fait que t'as été... nommé à cette position, c'est certainement
j'étais pas très bon au début, hein, mais en fait le truc pour résumer, moi je fais un stage, ça se passe très bien, j'accroche vraiment bien avec l'équipe à l'époque, Damien Granger qui était le rédacteur en chef, Arnaud Bordas qui était le secrétaire de rédaction, Stéphane Moïsakis, voilà, des gens qui m'ont très bien accueilli, qui étaient très sympas, Fatih Bédiard aussi, voilà, des personnalités qui étaient très stimulantes, avec lesquelles j'échangeais et tout, puis voilà, je les ai trouvés vraiment fort sympas et très intéressants. Et il s'avère que Arnaud, le secrétaire de rédaction de l'époque, voulait plus faire ce travail de secrétaire de rédaction, et il voulait être simplement rédacteur. Et puis bon, je pense qu'il y avait des projets de vie aussi un peu différents. Et donc, je suis passé en été 2004, je passais mes vacances à Paris, c'est-à-dire à quel point je faisais vraiment l'inverse, c'est-à-dire que je quittais le sud pour monter plutôt au nord, quoi. Et en fait, je passais à la rédaction pour dire bonjour, en fait, ouais, salut, ça va bien, j'ai fait un stage il y a 4 mois, donc on va boire un café, il me dit, t'as pas vu l'annonce, on cherche un SR et tout ça, je fais, bah non, quelle annonce? En fait, ils avaient passé une annonce dans le journal, j'avais même pas vu. Et il me dit, ça t'intéresse pas, toi, tu veux pas passer le test, on voit si tu peux être secrétaire de rédaction et tout, je fais, je sais pas, ça consiste en quoi, faut corriger des textes, faire un peu de réécriture, tout ça. Ouais, pourquoi pas. Il savait que j'avais un bagage littéraire mais limité, mais bon, voilà, je savais parler français, je savais l'écrire, me semble-t-il pas trop mal, je faisais pas trop de fautes, voilà, j'avais fait quelques panouilles dans fanzine, j'écrivais un peu sur des sites internet, enfin, des petits bidules, quoi, comme ça. Et donc je passe l'essai, ça se bah, c'est pas trop mal. À vrai dire, ils n'avaient pas non plus l'embarras du choix. Mais bon, en fait, ils se sont dit, tiens, on veut un gars plutôt jeune, plutôt sympa, qui écrit plutôt correctement. Et finalement, je crois que sans répondre à 100% à tous les critères, j'ai un peu coché finalement toutes les cases. Et c'est comme ça que j'ai été embauché, ouais. Et puis, j'ai commencé en tant que SR, qui était un vrai taf de chien, hyper, hyper dur, où on fait de la correction, de la réécriture. Et c'est probablement un des travails un des travaux plutôt les plus durs que j'ai jamais fait, parce que c'est l'effacement total au profit d'une autre signature, ce qui me convient très bien, mais c'est aussi parfois des opérations de sauvetage pour rééquilibrer des textes qui sont pas bien écrits, voilà, il y a toute la partie orthographique et syntaxique évidemment qui est parfois à réviser, mais il y a aussi voilà l'aspect la pertinence, le propos, mettre en avant une idée, essayer de faire en sorte qu'elle soit plus saillante alors que c'était peut-être pas ça qui germait au premier regard du texte. Donc c'est un travail hyper hyper dur, et encore aujourd'hui je suis très admiratif de mon secrétaire de rédaction sur Mad ou sur Atom, parce que c'est un taf vraiment très très laborieux et qui demande beaucoup de patience. Ouais.
En même temps, c'est aussi un taf très formateur.
C'est hyper formateur.
Et c'est ça qui a fait aussi que tu étais la bonne personne quand cette opportunité d'être rédacteur en chef.
Bah oui, parce qu'en fait, tu
s'est présenté.
Ouais. C'est ça. En fait, déjà, quand tu es secrétaire de rédaction, en tout cas, si tu es en poste fixe, déjà tous les jours, tu es avec le rédacteur en chef. Donc, tu vois comment la rédaction tourne. Tu fais aussi parfois office de tampon entre le rédacteur en chef et la rédaction. Donc du coup, tu parles au rédacteur, tu sais comment ils écrivent, tu sais aussi quels sont leurs égos, tu sais quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, tu sais sur quoi ils peuvent écrire, sur quoi ils peuvent pas écrire. Donc du coup, tu maîtrises un peu tout ça. T'es coupé de l'aspect plus politique, t'es vraiment dans l'opérationnel rédactionnel dur. Donc après l'aspect politique, ça tu l'apprends sur le tard, quoi. Mais oui, c'est hyper formateur. Et puis surtout, tu lis, tu réécris. En fait, c'est pour ta propre écriture, en fait, ça devient quelque chose de très très utile.
Et donc, tu es rédacteur en chef en 2006, tu deviens rédacteur en chef en 2006. Il y a une décennie qui se passe, 2006-2016, où voilà, tu vas tenir la barque de Mad Movies avec succès, malgré une situation compliquée pour la presse papier.
Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a tangué pas mal. Ça tangue encore.
Mais le magazine résiste.
Ah oui, plus que jamais. Ouais, on est là, on n'a jamais.
En plus, vous avez développé d'autres d'autres formats.
Les hors-séries, beaucoup.
Beaucoup d'hors-séries, beaucoup aussi de.
Format que j'aime bien, les hors-séries.
C'est le format vraiment fort aujourd'hui de la marque.
Les formats aussi avec. Il y en a certains avec des DVD, d'autres qui sont plus des formats presque, enfin, comme des livres.
Complètement.
D'ailleurs, qui sont vendus aussi dans des circuits de librairie.
Tout à fait.
Tu vas lancer d'autres projets aussi en parallèle, parce que tu vas être étroitement impliqué dans la création du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival. Donc, c'est 10 années, quand on regarde rétrospectivement, c'est 10 années assez intenses, j'ai l'impression, dans lesquelles tu es à fond dans le cinéma. On se posait la question, quelle est la place du manga durant cette décennie? Est-ce que tu continues à en lire? Est-ce que c'est une passion que tu as un petit peu reléguée par faute de temps ou par faute d'intérêt? Comment ça s'est passé durant ces 10 années-là?
Il y a eu une période où effectivement c'est une passion que j'ai reléguée, enfin du moins j'ai perdu en assiduité et en suivi de lecture, tout en étant toujours lecteur mais en ciblant vraiment des titres et en poursuivant certaines séries. C'est après mon premier voyage au Japon, donc un voyage personnel de tourisme, en 2008, que ça m'a un peu remis le pied à l'étrier, enfin ça m'a un peu revigoré, repassionné d'une certaine manière, puisque j'ai eu une sorte de shot comme ça de culture populaire japonaise. Donc pour le coup, moi j'ai jamais vraiment abandonné le manga, j'ai plutôt creusé les expressions artistiques japonaises plutôt du côté du cinéma, on va dire, mais vu qu'il y a un vrai lien très important entre le cinéma japonais et le manga, que ce soit par le biais de certains metteurs en scène qui sont parfois aussi mangaka ou des adaptations de manga au cinéma. Enfin, bref, c'est en tout cas après ce voyage en 2008 que je me suis mis à déjà à ramener des livres en japonais. J'avais déjà des mangas en japonais puisque j'achetais des imports à l'époque quand j'étais encore au collège, puisqu'il y avait des rayons imports dans les librairies à Nice. Enfin, en tout cas, dans les deux librairies que je fréquentais. Donc voilà, j'avais acheté quelques survivants. Tiens, c'est le premier manga en japonais que j'ai acheté. Et là, pour le coup, je me suis un peu plus déployé sur le manga à partir de 2008. Je suis mis à découvrir des titres, enfin des titres en tout cas qui venaient juste d'être édités et que je me suis mis à suivre. Et après, j'ai fait ça complètement en dilettante, quoi. C'était une passion. Je lisais, ça m'intéressait. Puis après, je suis retourné régulièrement au Japon.
Bien qu'avec quelques incursions du manga aussi de temps à autre dans Mad Movies déjà. Avant Atom.
Oui, bien sûr. Oui. Ben, on avait. C'est bien plus tard, mais oui, je me souviens, j'avais écrit une critique sur la sortie du premier tome, enfin des deux premiers tomes, parce qu'ils étaient sortis simultanément d'Attaque des Titans dans Mad Movies. J'avais écrit aussi. J'avais fait une interview par mail de Kengo Hanazawa à l'époque de I Am a Hero. L'interview était totalement nulle d'ailleurs, je me souviens. Mais je sais pas, c'est pas. Puis mes questions n'étaient pas top non plus, enfin bref. Mais on avait publié une page, je crois. Et ouais, il y a eu des petits trucs.
Donc ça fait trois fois que tu l'as interviewé.
Oui, du coup, ça fait trois fois. J'ai oublié complètement cette fois, en fait. J'ai complètement oublié cette fois. C'était une toute petite interview, c'était court, je sais même plus dans quel numéro de maths. C'était vraiment le premier volume de I Am a Hero. Et ouais, puis après j'ai chroniqué aussi les bouquins du Lézard Noir dans Match, je faisais des trucs sur certaines de leurs sorties, des titres de Yemacho aussi, des Kago, enfin je me disais tiens, je vais parler des livres qui seraient susceptibles d'intéresser des lecteurs.
Il y avait une collaboration aussi avec Akata quand ils avaient lancé la collection.
Ouais, ça c'était aussi un peu plus tard. Ouais, il était venu Bruno à la rédaction c'était quoi en 2014
je crois, il était venu, tu lances la collection.
C'était marrant, il était venu et il m'avait parlé de Lady Boy vs Yakuza, tout ça, etc. Je connaissais pas du tout, il m'avait amené le volume en japonais. J'adore, c'est le scénario et tout. Et puis, c'était effectivement, il y a eu des petites graines qui ont été semées ça et là, comme ça. Ouais. Et
la raison pour laquelle j'ai pris comme ça ce bloc de 10 ans dans ta carrière 2006-2016, c'est que après, en 2017, il y a l'arrivée de Datom.
Ouais.
Et donc, tu lances, je suppose, en 2016.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ce chantier.
Ouais, j'en parle au printemps 2016. Mais peut-être que j'anticipe sur ta question, hein, tu vois.
Mais la question, c'est ça. C'est comment est-ce qu'émerge l'idée de ce projet Atom. Moi, j'ai l'impression que ça émerge aussi après 10 ans de bons et loyaux services dans le cinéma.
Ouais. Je m'en rendais pas compte avant que tu m'en parles, mais c'est un peu ça. Ouais. Je dis pas que j'ai fait le tour de la question sur le cinéma, mais effectivement, tu finis par avoir un peu d'expérience sur comment on fait un magazine, simplement. Et puis Mad Movies, c'est un titre historique qui se trimballe une histoire considérable. Et c'est vrai que, non pas que ce soit lourd à porter, mais il y a quand même quelque chose de s'ancré dans un certain héritage. Et même si moi, j'ai essayé de faire bouger humblement un peu les lignes, voilà, on est quand même porteur d'une sorte de patrimoine. En plus j'ai réactivé d'autres titres entre temps. Impact, c'est un magazine sur le cinéma d'action qui était sur le petit frère de Mad Movies à l'époque, que j'ai réactivé aussi parce que j'aime beaucoup le cinéma d'action aussi. Et du coup sa création, elle part d'un simple constat, c'est j'aimerais exactement lire ce type de revue et ce type de revue n'existe pas. Donc il y a deux possibilités, soit j'attends qu'elle existe un jour, soit je la fais moi-même. Il s'avère que j'ai les deux pieds dans la presse, que j'ai un éditeur qui m'écoute, qui me suit, et je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire une revue donc de manga très exigeante sur le fond comme sur la forme, qui propose une véritable réflexion sur le médium, qui soit aussi un vrai support d'investigation, l'idée de partir au Japon, de rencontrer les auteurs, parce qu'on ne va pas attendre que les auteurs viennent à nous, qu'ils viennent en France, toutes les morts d'évêques, on peut toujours attendre, et avec, comme ça, une sorte d'exigence formelle qui est héritière, d'une certaine façon, de ce qu'avait fait Christophe Gans avec le magazine HK. Et même si sur la forme tout à fait différent, lui était sur du papier glacé, sur un format un peu plus grand, quelque chose d'un peu plus fastueux, et Atome est un peu plus sur la retenue, peut-être un peu plus dans la sobriété. J'ai pas envie d'essentialiser, mais peut-être un peu plus japonais d'une certaine manière, quoique la presse japonaise parfois ça pique un peu les yeux. Mais et donc je lui propose en fait l'idée de faire une revue sur le manga. Donc mon éditeur, qui ne connaît absolument rien en manga, mais genre rien du tout, qui pour le coup est cinéphile, mais alors là, il dit, ah bon, ouais, ok, ouais, mes petits-fils, ils lisent des mangas, ouais, pourquoi pas, machin, etc. Et puis en fait, je parle aussi du projet à notre régie publicitaire, parce qu'il faut quand même...
c'est bien.
Voilà, on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, et puis si on veut que le titre perdure, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de publicité, quand même, quoi. Et eux sont hyper emballés, etc. Et dès le début, ils souhaitent que je fasse quelque chose d'hyper pop, pas que sur le manga, ils veulent un truc plus culture pop japonaise, ouais, tu peux mettre du jeu vidéo, de l'animation, du cinéma, etc. Moi, je fais non, je vais faire un truc sur le manga papier, pas l'animation, pas le jeu vidéo, pas le... À la rigueur, je veux bien vous faire entrer peut-être une rubrique, etc. Et tout. Puis en définitive, après, quand j'ai fait mon premier chemin de fer, j'aurais pas du tout fait entrer des rubriques. C'est un truc qui est complètement dérubriqué.
C'est ou ça, genre, il y a très peu de rubriques.
Un tunnel d'interview, donc un truc plutôt austère à l'origine. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, en termes de structure. Et eux, en tout cas, bah, commencent un peu à parler du projet aux professionnels, aux éditeurs. Faut savoir que eux, en fait, la régie Mint, ils sont que deux. Maintenant, ils sont plus qu'un. C'est Fabrice Régie. Donc son famille, c'est Régie, comme une régie publicitaire, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Et eux, en fait, ils s'occupaient de la régie publicitaire de Kaboom, voilà, qui était un magazine de bande dessinée de référence aussi, que j'ai lu, j'ai tous les numéros d'ailleurs, et c'était un magazine qui m'intéressait beaucoup, et j'aimais beaucoup les entretiens, j'aimais beaucoup ce que faisait justement Stéphane Beaujean, enfin je trouvais que c'était un...
Et qui d'ailleurs venait de se terminer, je pense, à ce moment-là, en 2016.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais en fait, le truc, c'est que c'était pas du tout volontaire. C'est-à-dire que le lancement d'Atome n'est pas venu, en fait, combler une sorte d'espace laissé vacant par Kaboom. C'est vraiment une sorte de pur hasard, en fait, que le projet Atome émerge juste au moment où Kaboom s'arrêtait. Donc c'est vrai que l'approche de Kaboom, moi, me séduisait en tant que lecteur. J'ai pas du tout essayé de dupliquer ce qu'ils faisaient, parce qu'en fait, ils ont pas du tout réinventé la roue. Le concept d'entretien, ça existe depuis toujours. C'est vrai que dans la BD, c'est différent, et dans le manga encore plus. On n'a pas vraiment l'habitude des entretiens fleuves, c'est plus quelque chose qu'on retrouve dans la presse musicale ou dans la presse ciné. Et donc, la régie est OK, mon éditeur est OK, et puis, sous ma douche, je réfléchis à un titre et je pense à Atome. Je me dis, tiens, c'est bien, c'est pas mal, ça claque. Tetsuo Atomu, c'est un peu l'évidence, et je me dis, tiens,
Astro, le plus qui
revient. Et alors, avant qu'on rentre vraiment dans les tréfonds de Atome, on avait une question, parce que justement, tu présentes souvent Atome comme une revue,
ouais,
et non comme un magazine.
Ouais.
Et est-ce que tu
pourrais... C'est snob, n'est-ce pas?
On est assez d'accord avec ça.
On est d'accord avec ça, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, comment tu distingues en fait ces deux termes?
C'est vraiment une subtilité sémantique. Je pense que une revue, je pense qu'elle est naturellement plus exigeante dans la forme et aussi dans le fond, pourquoi pas. Et on va dire qu'elle se rapproche plus du livre. Après, il y a le mot à la mode, MOOC.
Non, je pense que t'es pas trop fan.
Non, pas trop. C'est pas du tout mon truc, parce qu'en fait, le MOOC, c'est vraiment pour moi, c'est comment dirais-je, c'est quand la forme prend le pas sur le fond. Mais par ailleurs, j'ai beaucoup de MOOC chez moi, et graphiquement, c'est parfois quelque chose de très stimulant. J'aime bien, comme ça, aller regarder ce qu'ils font, la manière dont ils maquettent, etc. Donc, j'ai des MOOC chez moi, mais à faire, en fait, moi, je suis pas graphiste. Pas vraiment ce qui m'intéresse.
Moi, j'aurais presque ajouté un autre critère, je sais pas ce que t'en penses, c'est que pour moi, une revue aussi est moins de rubriques.
Oui, c'est vrai.
Et si on regarde un Atome, un numéro d'Atome, c'est vraiment des entretiens, donc de l'investigation, et à la fin, un petit cahier écrit.
C'est vraiment
quelques pages. Mais parfois, on a un numéro complet, pratiquement, d'entretien.
Et donc,
on n'a pas, si tu veux, un petit peu des rubriques attendu d'un magazine sur le manga, les news.
On est moins lié à l'actualité aussi, sur une revue.
Combien même les entretiens parfois font écho à les titres.
C'est logique, ça c'est l'idéal en plus. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est l'idéal. Et puis après, pour parler de manière très pragmatique, c'est vrai que même pour ma régie publicitaire, hein, si je lui dégaine une grosse cover qui colle à l'actu, bon, bah, très naturellement, ils me diront, ah, bah, c'est top, c'est bien, machin, etc. Mais c'est normal, il y a un moment où...
Est-ce qu'il y a vraiment, je me demandais, une différence en termes de vente par rapport à la couverture? Tu vois, et on a souvent cette idée, qui est d'ailleurs souvent relayée par les journalistes, en disant que la couverture, ça fait beaucoup dans la vente.
Ouais, quand même.
Dans le cas d'Atom, c'est aussi le cas.
Ouais, quand même, beaucoup, je sais pas, mais ça joue quand même. La couverture la moins performante de toute l'histoire du magazine, c'était Dan Dan.
Ok.
Voilà.
Et pourtant, c'est la nouvelle bombe du Shonen Jump.
Et pourtant, comme d'aucuns disent, mais ouais, c'était la couverture qui a le moins, c'est le numéro qui a le moins fonctionné. Et puis après, parfois, on a eu des surprises assez agréables avec certaines covers. Je me permets de me tourner parce qu'elles sont pas très loin. C'est à peu près stable, mais le numéro 1 a très bien marché. Le numéro 1 a très bien marché. Le numéro 2 a moins bien marché, la couverture Usamaru Furuya. Je pense plus... C'est parce qu'il y a eu un effet nouveauté. Les numéros 1, en presse, ça marche toujours très bien, etc. Et je me souviens, si ça vous intéresse, je vous enverrai les mock-ups des couvertures test pour le premier tome.
Ah, oui.
Ça, c'est assez rigolo, parce que c'est jamais montré nulle part. Mais il y a eu plusieurs... Il y avait trois... Donc il y a trois auteurs qui sont en couverture, Asano, Mochizuki et Oshimi, et donc on avait fait une couverture Asano, on avait fait une couverture Oshimi, et on avait fait une couverture Mochizuki. Et donc je me souviens, sur Mochizuki, on avait fait un test avec une couverture Tokyo Kaido, sur Oshimi, on avait fait une couverture test sur Dans l'intimité de Marie, et Asano, bon, on avait pris le DDT. Et donc on a gardé, j'ai encore sur mon ordinateur les premières maquettes, et celle d'Oshimi, elle était vraiment très jolie, et elle était très dans un esprit, elle était beaucoup plus plinesque avec justement Marie, tout ça, etc. Il y avait quelque chose qui collait peut-être plus à cette idée d'étudiante japonaise, de jeunesse japonaise, enfin on retombait un peu dans les mêmes fétiches, tout ça, etc. Puis c'est un titre assez tordu dans l'intimité de Marie, comme les titres de Shōzō Shimi d'ailleurs. Voilà. Et finalement, je me suis dit, tiens, j'ai plutôt envie d'envoyer un message, non pas positif, j'ai l'impression d'être une sorte d'homme politique en bois là, mais j'avais plutôt envie d'être un peu pop, un peu, voilà, et en fait, les deux gamines du manga d'Asano, elles connaissent
ça. Et donc, comme tu as dit, le nom que tu retiens en prenant une douche, c'est Atom.
Ouais, je me douche en pensant à Osamu Tezuka, c'est quand même dingue.
Donc, Tetsuo Natomu, donc le Astro, le petit robot. Ouais. Et tu demandes à l'artiste Tom Kahn de réaliser le logo du magazine.
Ouais, alors c'est marrant parce que donc, sur Atom, en fait, donc je pars, donc je vais faire un magazine, mais je ne sais absolument pas qui va écrire dedans. Je ne sais pas du tout qui. Alors je lisais Kaboom, donc j'avais repéré effectivement quelques signatures, donc Xavier Gilbert. J'avais vu les papiers de Marius Chapuis dans Libération, etc. Et il s'avère que Libé, en fait, ils sont à l'époque, ils étaient à 5 minutes de la rédaction de Mad Movies et donc d'Atom. Donc je repère comme ça des signatures et tout, puis je contacte les gars, en fait, mais en vrai, ils ne savent pas qui je suis, enfin. Et il s'avère que ce sont des mecs très sympas. Donc on a déjeuné, on a discuté, machin et tout, puis je leur parle du projet, et ils me regardent un peu, genre, ça va sortir ce truc, c'est genre, c'est une revue sur manga, bon, c'est quoi le sommaire et tout, bon, il y aura des trucs comme ça, t'es sûr et tout, enfin. Mais en même temps, ils sont hyper chauds, et puis ils partent la fleur au fusil, ils me livrent les premiers articles, enfin, Marius, je sais pas combien d'articles il a fait dans le premier numéro, mais. Des trucs assez costauds sur Kamimura, machin et tout. Mec bourrine.
Il écrit toujours beaucoup le cahier de critique.
Ouais, là, il avait fait pas mal d'articles, pas mal de biblios et tout, etc. Puis en fait, il me suit à fond, alors qu'en fait, il sait même pas à quoi ça ressemblait. Et ce qui est drôle, c'est que une des premières personnes avec qui j'étais en contact lors de la création du magazine, c'est Aurélien Lestagier, qui en fait est un ami d'un ami, François Dabi, donc. Alors ça va être, je vais essayer de pas trop digresser. François Dabi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de Mad Movies, qui en fait est aujourd'hui en charge de construction de décors à la MCJP, qui a par ailleurs travaillé sur la dernière édition du Festival d'Angoulême, sur Manga City. Et en fait, lui, c'est un gros lecteur de Mad Movies. Il s'avère que c'est un gros lecteur de manga aussi, et il s'avère qu'il avait rencontré Aurélien, qui a fait plusieurs missions de traduction et d'interprétariat pour la MCJP, notamment quand certaines troupes de théâtre du Japon venaient à Paris. Et il me dit, François, tiens, Aurélien, cherche un peu de taf en ce moment. Alors il paraît que tu lances une revue de manga et tout, tu pourrais peut-être peut-être que ça peut l'intéresser et tout. Donc je rencontre Aurélien et je lui parle de ce projet et tout. Et Aurélien, qui est devenu vraiment un ami très cher, hyper réceptif, et c'est un mec qui est très intelligent, très vif d'esprit, tout ça, etc.
Alors, juste pour les auditeurs, pour resituer Aurélien, c'est un traducteur,
Ouais, Aurélien stagiaire, ouais.
voilà, qui a fait quand même
Pas
Stop,
n'importe qui en plus.
pas n'importe qui, hein, qui a traduit Stop et Barry Coon chez
Ouais,
Les Arts
bizarrement.
Noirs. C'est lui qui traduit actuellement Tokyo Revengers, je crois, ou je sais pas s'il le fait encore, mais il
Ouais,
faisait
là
en
il le
tout
fait
cas,
plus maintenant, mais il a traduit,
il
il en entendait.
traduisait Tokyo Revengers chez Glénat. Voilà, il a un sacré niveau en traduction.
Ouais. Et il avait eu le prix Konishi de la meilleure traduction de
Tout à
manga
fait,
en français
ouais.
aussi, ouais. Pour Stop
Stop
the
et
Bagel.
Barry Coon.
Exactement.
Et donc Aurélien, voilà, je commence un peu à lui expliquer le projet, tout ça, etc. J'ai l'idée de partir au Japon et tout. Puis lui, il accepte de partir au Japon avec moi sur ses propres deniers. Okay. Et donc moi, bon, après, je le paye évidemment ses missions de traduction sur place et tout. Donc, et c'est très drôle parce que c'est la première personne qui, quand je lui ai dit, tiens, le titre va s'appeler Atome, me dit, t'es sûr, Atome, t'es sûr, parce que quand même. Atome, la bombe atomique et tout, ses borders, machin, etc. Et donc en fait, il a commencé à me mettre une sorte de rat dans la tête, quoi. Il a commencé à me ronger. Je me suis dit, mais putain,
Il a raison.
peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est complètement con comme titre, et peut-être que ça va être hyper mal reçu, et peut-être que. Et après, Marius, il me dit, peut-être qu'Aurélien, il a peut-être raison, machin, et tout. Et en fait, je dis, ah putain, merde, et tout. Puis, quelques connexions avec le Japon aussi, plutôt cinéma. Donc, je demande à des Japonais, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et tout. Atomu, non, Atomu, là, tu me dis ça comme ça, envie de manga, pour moi, c'est soit Atomu, non, il n'y a pas de problème, non, non, t'inquiète, etc. Donc, je me déballonne pas, je lui dis non, mais en fait, ce sera Atome.
Ce sera
Atome,
Atome.
c'est un très bon
Et
titre.
alors, 6 ans plus tard, hein, t'as jamais eu de problème.
Aucun,
Ouais.
pas l'ombre d'une remarque,
Ouais.
pas le
Donc voilà.
début d'une réflexion.
Ok.
Rien du tout.
Donc c'était le bon choix.
Je pense. Et Tom Cannes, bah, Tom Cannes, c'est le cinéma, c'est-à-dire qu'en fait,
Ouais, donc tu vas pas chercher n'importe qui, en fait.
non, non. Et en fait, alors que en vrai, j'ai absolument pas le budget de me payer Tom Cannes. Tom Cannes qui a travaillé sur la franchise Matrix, qui a travaillé sur Speed Racer, qui a fait les génériques pour Gaspard Noé, entre autres,
Qui a fait
pour
une
les.
pochette de single de Daft Punk aussi,
Tout
de
à
Burning.
fait, tout à fait. Il a travaillé récemment aussi avec les frères Safdie. Enfin voilà, c'est un artiste immense, d'origine japonaise donc. Et en fait, je chope son contact via Gaspard Noé, que je connais un petit peu. Voilà, j'envoie un SMS à Gaspard. Je lui dis, écoute, t'as le contact de Tom Cannes et tout. Tiens, voilà son mail et son téléphone. Je lui écris, lui, bon, bah voilà, photo, machin, Mad Movies, etc. Fait de manga, logo et tout. Le mec me répond tout de suite, on se voit, on déjeune. Hyper assez accessible, très sympa. Il adhère au projet. Et après, bah, quand vient le moment de passer la douloureuse, là, je lui explique que, bon, voilà, niveau budget, bon, voilà, on va débloquer quelque chose, mais. Et en fait, il a été très très sympa, c'est que il a été payé, évidemment, mais il nous a accordé des facilités de paiement pour qu'on puisse un peu échelonner justement sa facture et qu'on ne soit pas assommé dès le numéro 1 avec des frais considérables sur l'identité graphique. Parce qu'il a aussi travaillé sur l'identité graphique, c'est-à-dire qu'il a fait le logo, il a travaillé aussi certains petits logos qui sont en tétière, il a travaillé aussi certains points de ponctuation, il a fait plein de logos alternatifs qu'on peut voir d'ailleurs sur son site, sur Atom, il y a plein de logos. En fait, il m'a clairement envoyé une plaquette absolument délirante avec plein de versions. Qui sont trop cool, on pourrait faire plein de trucs avec tous ces logos. Et après, son identité graphique, elle a été non pas remaniée, mais elle a été utilisée par ma graphiste, Isabelle, qui s'est aussi occupée d'ailleurs des couvertures de la collection Héritage, pour information, et qui a fait le
Ah,
logo. Ouais.
intéressant. Okay.
Et c'est comme ça que le titre a ensuite trouvé son identité, avec voilà, cette envie, dès le départ, c'est de faire un magazine, une revue, pardon. Je vais pas me contredire, qui soit belle, en fait, aussi.
Alors justement, dès le départ, dès le numéro 1, il y a cette maquette qui est très affirmée, avec un style aéré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment tu en arrives à cette idée d'avoir... Il y a beaucoup de blanc, il y a un côté très... je trouve ça très fort, hein, esthétiquement parlant. Ça tranche beaucoup, je trouve, avec les publications japonaises, en fait. Tu faisais une référence tout à l'heure aux publications japonaises qui,
Y a...
parfois, ont tendance à être un peu chargées,
Ouais, plein
tu
d'encadrés
vois,
partout. Enfin, soit
et...
parfois il y a des choses qui sont très épurées, soit parfois c'est des espèces d'encadrés. Enfin, c'est un style qui.
C'est souvent une extrême ou l'autre, tu vois. Il y a un style minimaliste assumé ou quelque chose de vraiment très chargé.
Atom est plutôt dans le côté minimaliste.
Ouais.
Avec voilà, beaucoup d'espace. En même temps, c'est aussi très lisible. Il y a cette idée d'avoir l'entretien au centre de la page, mais des compléments bibliographiques parfois de côté. C'est quelque chose qui, je suppose que tu as dû vraiment le discuter au préalable.
Pas tant que ça, en fait, finalement.
Ça n'a pas vraiment bougé en 6 ans. Donc,
non.
Tu es arrivé avec la formule déjà
très,
très bien pensée. Finalement.
Ouais, en fait, en vrai, c'est parce que moi j'aime bien lire des magazines qui ressemblent à ça. Et donc, pour préparer Atom, je suis pas parti au Japon pour préparer Atom, mais en fait, j'ai beaucoup voyagé au Japon avant de partir pour le boulot en tant que touriste. Donc, je partais tout seul, très souvent. Voilà, je passais 10 jours au Japon, et puis à chaque fois dans mes valises, je ramenais beaucoup, beaucoup de presse. Beaucoup de mangas, beaucoup de presse. Et quand j'ai su que le projet Atom allait se faire, en fait, quand je suis parti au Japon, j'ai ramené beaucoup de magazines, des revues, des MOOC, des choses qui parfois n'avaient aucun rapport avec le manga. Mmh. J'avais à la fois ramené des revues de tendance qui sont très connues de ceux qui connaissent la culture presse japonaise, des revues comme Popeye, comme Brutus, ou Brutus, comme ils disent. J'avais aussi ramené Juxtapose, tiens. J'avais aussi ramené Juxtapose, et puis des revues design, enfin un peu plein de
trucs. Attends, il y a une version japonaise.
J'avais acheté la version américaine à Tokyo.
Ouais, ok.
Comble du snobisme. Alors que j'aurais pu le trouver ici en librairie sans problème.
Non, mais toi tu.
Mais et en plus, je crois que je l'ai payé bien plus cher du coup, mais. Et donc j'ai ramené tout ça et puis j'ai posé la documentation sur le bureau de ma graphiste. J'ai dit bon bah voilà, tu vois un peu un truc très sobre et tout, puis surtout laisser les visuels respirer. Et surtout avec cette idée de faire en sorte qu'on puisse y revenir des années après sans que la maquette ait pris un coup de vieux, quoi. Parce que
en tout cas c'est le cas.
Ouais, je pense. Bah, c'est vrai que le problème avec la presse, c'est que bah, comme tout, hein, à partir du moment où on est beaucoup trop typé graphiquement, il y a quand même un risque de péremption assez élevé.
Selon toi, comment tu définirais la ligne éditoriale d'Atom? Plutôt dans qu'on discutait, tu parlais déjà que c'était dérubriqué.
Ouais.
Est-ce que par exemple déjà t'as une idée claire du lecteur type de la revue par exemple?
En fait, pas trop. En fait, j'ai en tout cas au début pas trop. J'ai fait cette revue un peu comme vous avez fait ce podcast. C'est avec le geste au départ, il est hyper égoïste, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de faire la revue que j'ai envie de lire. Point barre. Si vous voulez pas la lire, ne la lisez pas. Tant pis, moi j'ai envie de la faire. Et après, au fur et à mesure, ça a naturellement bougé, parce que déjà on est rattrapé par, non pas par son lectorat, mais on est rattrapé par la réalité du marché. Alors ça veut pas dire que le magazine aujourd'hui ne me ressemble plus du tout, absolument pas. Ça veut juste dire qu'à un moment, si on veut se développer, il faut réfléchir à une ouverture et à un déploiement qui soit à la fois naturel, mais un peu pensé aussi. Et au début, la ligne Atom, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les artistes, quoi. C'est les auteurs et les autrices, c'est ça qui m'intéresse, c'est qui ils sont, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et donc en fait, dès le départ, je voulais les rencontrer et je voulais essayer de... c'est égoïste, mais il y avait aussi cette envie de partager quelque chose, c'est partager une sorte d'intimité artistique avec des lecteurs et avec des gens qui sont passionnés par le manga. Donc ça, c'était vraiment la première idée. Moi, j'ai pas du tout un tempérament de fan, je suis pas du tout midinette, donc je vais pas rencontrer un auteur juste parce que j'ai envie de le rencontrer. En fait, je veux le rencontrer parce que mon intérêt, c'est que sa voix puisse être portée jusqu'à nous et qu'ensuite, il puisse avoir des informations inédites qui circulent ensuite. Et c'est vrai que c'est assez rare, et je dis ça vraiment sans prétention aucune, il y a assez peu d'entretiens de mangaka même au Japon. Il y a des revues qu'on fait des entretiens, une revue par exemple comme Eureka, ou parfois dans certaines revues de tendance comme j'ai évoqué du type Popeye ou Brutus, il y a eu des interviews aussi de mangaka ou des numéros qui étaient consacrés à des mangaka. Finalement, il y a assez peu de choses, et moi j'avais envie de faire tout simplement ce qu'on pouvait par exemple trouver dans un magazine comme Positif, avec des longs entretiens fleuves avec des réalisateurs, mais du côté du manga.
C'est vrai que c'est important ce que tu soulignes. Non seulement il n'y avait pas d'équivalent francophone pour ce type de magazine, mais au Japon non plus, en fait. Il
n'y
a pas
de
magazine.
Non, il y avait un magazine qui s'appelait Comic Box, à un moment, mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas eu de rien à voir avec le magazine de comics français.
Ah oui, parce que
Il y avait un magazine qui s'appelait Comic Box aussi, que Custom Publishing, société éditrice de Mad Movies, avait récupéré à un moment. Donc la rédaction de Comic Box était aussi, si son nom redit, à un moment. À un moment, on était un peu dans le comics aussi. Moi, pas du tout, mais en tout cas, au bureau, c'était comme ça. Et c'est parti de ce constat-là. Et puis, voilà. Après, de manière très naturelle, j'ai essayé de rencontrer des gens qui m'intéressaient, que je jugeais pertinents, et avec ce que ça comporte de difficultés, puisque comme toute interview, en vérité, c'est toujours compliqué à mettre en place, sauf que là, on est vraiment dans un champ où les complications sont encore plus compliquées que les complications habituelles.
Alors, on va revenir sur la mise en place un petit peu de ces entretiens, de comment on réalise un numéro. J'aurais juste peut-être une question avant d'aborder cette thématique-là. Tu as ce parti pris éditorial qui est de donner la parole aux autrices et aux auteurs, c'est vraiment ça le cœur de la revue. On a vu également que récemment, tu as commencé à élargir un petit peu le champ de l'investigation en allant aussi montrer parfois une rédaction d'un magazine au Japon, de montrer une chaîne de vente de manga, par exemple Mandarake,
Great Vanguard,
récemment. Donc tu montres aussi un petit peu ce qui se passe autour du manga. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux poursuivre?
Ah oui, complètement.
Et si oui, est-ce que tu le poursuis dans l'optique toujours japonaise? Parce qu'en fait, la France est très absente, finalement.
Oui, c'est complètement volontaire.
Alors, il y a eu Xavier Guibert qui avait fait un papier sur le marché, l'évolution du marché. Ça arrive peut-être de manière ponctuelle, mais très souvent, le marché francophone est absent et on est vraiment centré sur ce qui se passe au Japon.
Oui, c'est complètement volontaire. Moi, j'ai vraiment envie de montrer ce qui se passe au Japon parce que c'est des lieux que je connais et que je fréquente depuis des années et des années. Je veux dire, le Village Vanguard qu'on voit en photo, là, mais j'y ai passé des heures, depuis des années, j'y passe des heures, celui de Shimokitazawa. Enfin, je veux dire, je connais les rayons par cœur, tout ça, etc. Et Mandarake, bon, c'est pas. Tout le monde va à Mandarake maintenant, c'est pas du tout. Enfin, voilà. Ouais. Mais
ça devient mainstream, mais ça l'était pas encore il y a, je sais pas, 5-10 ans.
Oui, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'horreur. La Canon Broadway, c'est l'horreur sur Terre, quoi. C'est vraiment, c'est en ouvert les portes des enfers et on a vraiment les touristes australiens, américains, les Français geeks avec les figurines Dragon Ball, machin. Horrible, c'est horrible. Et bref. Mais non, c'est ça qui m'intéresse. Déjà, c'est des reportages qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, quand on fait par exemple en interview les gars d'un label de t-shirts qui s'appelle Hardcore Chocolate, qui travaille avec des très grosses franchises, ils sont occupés de la dernière ligne pour l'AMU, pour Urusei Yatsura, ils ont fait plein de t-shirts, machin, etc. Personne ne les interroge, en fait, ces gens-là, alors qu'en fait, moi, à force d'aller au Japon, je voyais plein de fois des t-shirts Hardcore Chocolate, soit sur des personnes, soit dans des boutiques. Je me disais, mais tiens, mais c'est qui a derrière tout ça? Comment ils font des t-shirts Fujiko Fujio, ils font des t-shirts Umez, mais qui sont ces gars, en fait? Tout est licencié, en plus. Mmh. Et puis, à côté de ça, ils font des t-shirts aussi pour le cinéma, sur les films de Kinji Fukasaku et tout ça, machin, et tout ça. Oh, intéressant, qui sont ces gens et tout. Donc, je me dis, pourquoi pas faire un sujet? Et je suis très content que vous le remarquiez, parce qu'en fait, on n'a strictement aucun retour sur ces articles. C'est-à-dire que, personne me dit, ah, tiens, sympa, votre interview du fondateur de
Mandarake.
C'est
très
cool. C'est marrant parce que, en fait, on a des retours, et pour le coup, les retours, on les a du Japon. C'est-à-dire que c'est des gens qui me disent, ah, vous avez fait une interview du fondateur de Mandarake, vous avez fait une interview vous avez fait un sujet sur Village Vanguard, tu as Hardcore Chocolate. Donc, en fait, on est relayé par des comptes japonais, parfois, on a des petits mots sympas du Japon, mais alors en France, rien du tout, quoi. Alors, je dis pas que ce soit les meilleures interviews du monde ou quoi que ce soit, et parfois peut-être que la voix de certaines personnes qui sont interrogées est pas non plus, voilà, mais c'est assez unique, je pense.
Mais je pense que c'est aussi assez nouveau. Je pense que le lectorat n'a pas forcément l'habitude, à part peut-être un lectorat très ciblé du style les personnes qui vont lire Tempura, par exemple, tu vois, qui vont déjà avoir l'habitude.
Même si Tempura, c'est infiniment moins pop que nous. Et volontairement d'ailleurs.
Non, mais dans la démarche, parce que toi c'est pop, mais ça reste très, c'est quand même pointu, tu vois. Mais autant autant t'as l'impression que Mandarake c'est quelque chose de très connu.
Je m'enflamme un peu quand je dis ça. Mais c'est parce qu'après tu finis par avoir des. Le truc c'est que je vais au Japon parfois, je sais pas, il y a un mois qui sépare deux voyages, donc ça revient tellement normal. Mais je dis vraiment ça, c'est parce que c'est un peu comme, je sais pas, prendre le train et aller à Poitiers. Je sais pas, rien à voir avec le lézard noir, hein, je dis Poitiers comme ça, hein, Mais du coup, oui, ça, c'est vrai que ça me semble accessible et normal. Et du coup, j'imagine que pour le gros du lectorat, non, quoi.
Alors, on va revenir maintenant sur ces voyages. Parce que le voyage, c'est une dimension absolument
centrale. La Seco.
Je pense que la Seco, t'as pas le choix,
non. La Seco. Maintenant, j'ai pas mal de miles, donc parfois, j'arrive à me surpasser. Ah. Mais en utilisant mes propres miles.
Ouais. Ok. Mais, ouais, le voyage, c'est une dimension vraiment essentielle de la réalisation de ces magazines, de ces numéros, puisque tu vas à chaque fois, tu te déplaces au Japon. Je pense que tu te déplaces essentiellement à Tokyo, en réalité.
Malheureusement.
Ouais. Mm. Donc ça.
Je connais mal le Japon, je connais même pas bien Tokyo, en fait. En vrai, je connais des quartiers. Ouais.
Bon, c'est aussi une limite dans la capacité à peut-être à produire des entretiens. Est-ce qu'il y a beaucoup de mangaka qui seraient en dehors?
Il y en a, mais c'est compliqué. Et parfois, il y en a qui n'habitent pas à Tokyo, mais qui viennent à Tokyo pour l'interview. Mais je me suis déplacé quelques fois où j'ai été où, je sais plus. Mais oui, ça m'est arrivé de me déplacer quelques fois, mais assez rarement.
Mmh, ouais, c'est plutôt à Tokyo.
Est-ce que Nagoya, j'ai été à Nagoya.
Ah, ok. Mais c'était pas pour Akira Toriyama.
Non, non, pas du tout. C'était pour l'auteur de Docteur Toilette.
Mmh. Ah oui.
Voilà, paix à son âme.
Dont on attend toujours le tome 2.
Ouais, ouais. Cornelius. On était déjà très étonnés d'avoir un tome 1.
Voilà.
Est-ce que tu pourrais revenir quelque peu sur la sélection et l'organisation de ces entretiens?
Ouais,
comment tu mets en place ces entretiens?
Au début, c'était assez simple parce que je me suis dit, tiens, je vais interviewer les auteurs que j'aime.
L'idée est simple.
Il est très simple. Voilà. Avec aussi, vu que je fais de la presse, je sais aussi ce qui va sortir, tout ça, etc. Donc effectivement, quand on peut rebondir sur une actualité, c'est plus simple pour obtenir un entretien. Parce que si vous demandez un entretien avec un auteur, par exemple, dont tous les titres sont en arrêt de commercialisation en France, il est quasiment certain que la demande ne va pas aboutir puisque l'éditeur français qui n'existe plus ne va pas pousser une demande et parce qu'en fait les droits sont une espèce d'interzone et voilà, il faut que tout soit clarifié avant qu'on puisse recommuniquer autour d'un titre et d'un auteur. Donc il y a des envies, moi je suis très patrimonial parce que j'ai aussi ce souci d'enregistrer la voix et de faire porter la voix d'auteurs qui ont compté dans l'histoire du manga et qui ont été rarement interrogés et dont on ne trouve absolument aucune trace d'interview en français, en anglais ou en italien dans le monde occidental, on va dire. Il y a des envies très perso, il y a des auteurs que je veux faire depuis des années que j'ai jamais pu faire. Il y a parfois des idées qu'on me souffle aussi, évidemment. Et puis après, on est rattrapé par la réalité. C'est-à-dire que entre ce que tu veux faire et ce que tu vas pouvoir faire, il y a souvent un monde. Voilà, il y a des auteurs ou des autrices dont je cours après quasiment depuis le numéro 2 ou 3. Et on arrive sur le numéro 25 d'Atome. Avec des relances qui sont faites non pas tous les 3 mois, mais parfois 2 fois par an. Et après, au bout d'un moment, on vous dit, écoutez, maintenant, il ne faut plus assister, c'est pas possible, il ou elle ne veut pas, ou ce sera peut-être pour le lancement de son prochain manga, ou si jamais il y a une exposition au Japon, il ou elle réapparaître dans les médias, donc là, on pourra peut-être l'attraper à ce moment. Donc en fait, il y a tout ça, et puis après, il y a aussi, encore une fois, quelque chose d'hyper terre-à-terre, c'est la disponibilité d'un auteur ou d'une autrice au moment où moi je vais au Japon, parce que je passe pas un mois au Japon.
C'est ça, en fait, aussi.
Je reste une semaine, 10 jours, 15 jours grand maximum, et il faut que dans le temps où je suis présent, l'artiste soit aussi disponible. Donc parfois, il y a eu des rendez-vous manqués, colossaux, quoi. Enfin, parfois, une semaine, je partais et c'était impossible pour moi de repousser. Parfois, pour des raisons de coût, parce que j'étais appelé sur un autre bouclage, et voilà. Et puis, du coup, l'interview, elle se fait pas, et puis peut-être qu'elle se fera jamais, en fait.
Mais justement, comme t'as des délais assez restreints quand tu vas à Tokyo, j'imagine que ça doit être déjà la super course.
Ah oui, oui, oui.
Et on se demandait avec Pedro si tu calais justement plusieurs entretiens durant le même séjour.
Oui, oui, non, mais c'est marrant parce que. En fait, il y a quand même un gros facteur chance là-dedans. C'est-à-dire que je suis comme une sorte de pêcheur avec mon filet, je balance tout, je vois ce qui mord et je remonte. Quoi. Et en fait, oui, il y a des fois où j'ai des collisions de créneaux, etc. Mais en fait, c'est vrai que déjà, je pars du principe que je vais avoir une majorité de refus. En fait, il faut partir de ce principe-là, en fait.
Mais c'est un principe qui se réalise.
Oui, parce que c'est toujours ça. Ouais, t'as majoritairement des refus. Donc en fait. Au début, tu vises large et tu sais très bien que ton spectre il va se réduire et que sur la réduction que tu vas obtenir, tu vas pouvoir ensuite aménager parce que finalement, tu vas pas en avoir beaucoup. Donc en gros, quand tu en demandes 10, et allez, tu vas en avoir 3 dans le meilleur des cas, quoi. 4, peut-être grand maximum. Et après, bon, bah, c'est simple, quand tu as ces quatre-là, tu arrives à les caler dans ton emploi du temps. Et puis, c'est vrai que souvent, les éditeurs japonais, quand tu leur expliques que tu viens de loin, ils font quand même aussi un peu l'effort de te demander quel jour tu es disponible, etc. Donc ça fonctionne en fait de manière très simple comme ça, avec le concours des éditeurs français qui eux passent le message à l'éditeur japonais. Éditeur japonais, la demande elle est reçue par le département des droits internationaux, qui elle ensuite fait remonter la demande au département éditorial. Le département éditorial s'adresse au responsable éditorial de l'auteur que j'ai demandé. Le responsable éditorial de l'auteur que j'ai demandé fait remonter l'information à l'auteur. Et ensuite
C'est
ça redescend.
un
Voilà.
sacré cheminement
Ouais.
pour arriver à avoir
Ouais.
un seul entretien dans un mur.
Et tu as parfois, je suppose, des délais qui peuvent aller de plusieurs semaines à plusieurs
Ah
mois,
oui.
non?
Mais
Entre.
parfois même je partais, pardon, je te coupais,
Ah.
mais je partais, je sais pas, dans 4 jours au Japon et j'avais aucun entretien de calé et genre les entretiens se sont calés 2 jours avant.
Donc, ah ouais, tu parles avec le stress
Et
alors.
donc là je me disais, parce que moi ensuite j'ai des comptes à rendre, mais mon patron est très conciliant, mais il y a aussi ce truc de je pars et je peux pas, voilà, je peux pas tirer à blanc quoi en fait en réalité. Donc si je pars et que je ramène rien, qu'est-ce qui se passe quoi? C'est arrivé hein, que je doive repartir en urgence ou j'essaye de monter des interviews ensuite en visio, mais en visio il y a plein d'auteurs qui refusent aussi, donc c'est très 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 compliqué. Donc non non, ça arrive que les confirmations tombent très très tard, très très tard. Il y a un numéro là justement, le numéro avec Makoto Yukimura en couverture, Higashimura et qui d'autre va arriver? Ah ouais, et Hiromu Arakawa. Ces trois-là, j'ai eu la confirmation 72 heures avant mon départ.
D'accord.
Donc 72 heures avant, je n'étais pas sûr de pouvoir les faire.
Combien il te faut de voyages pour avoir un numéro complet,
Un
d'après toi?
seul. Normalement, l'idée c'était de faire 4 voyages par an, parfois un cinquième de secours. Et puis parfois je traîne en Asie pour le plaisir aussi. En Asie sans haine, hein, je tiens à le préciser, qu'il n'y ait pas de confusion. Et ouais, c'est ça, c'est un voyage, un numéro.
Ok, donc t'es quand même assez stressé quand tu pars au Japon sans aucun rendez-vous de calé, en sachant qu'il y a un numéro de plus de 100 pages à remplir. Hein. Ouais. On se demandait aussi comment se réalisent ces entretiens. Est-ce que tu viens avec un interprète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voyage avec toi? Est-ce que tu contactes une personne sur place pour
J'ai une délégation qui m'accompagne. Non, non, j'aurais aimé être comme Jacques Chirac à l'époque avec Catherine Cadou qui voyage avec moi et qui fait office d'interprète. Mais non, non, suis longtemps parti avec Aurélien, pas toujours au même moment. Enfin, il était au même moment que moi au Japon, on va sans dire. Mais en fait, il partait parfois un peu avant. Et donc lui, il m'a accompagné de manière très régulière sur 5 numéros. Sébastien Ludman qui m'a beaucoup aidé aussi et qui fait partie des tout premiers collaborateurs aussi d'Atome, lui il était présent dès le premier numéro, il avait fait l'interprétariat sur l'interview de Rei Mikamoto. Aujourd'hui malheureusement Aurélien voyage plus trop au Japon, donc il est plus trop présent et je le regrette, mais j'ai de fidèles amis sur place à Tokyo qui m'aident. Sébastien qui n'est plus localisé à Tokyo maintenant, mais qui vient parfois à Tokyo juste pour moi, pour m'aider. Thibaut Desbief aussi, c'est souvent des traducteurs de manga, donc vous connaissez les noms en fait.
Ouais,
Hein.
tout à fait.
Voilà.
Thibaut Desbief, traducteur récent de Hunter x Hunter.
Ouais, voilà.
Sébastien Ludman qui a fait l'excellente adaptation de Sengo. C'est des gros noms. Ouais.
Puis ce sont des gens qui sont très professionnels, avec beaucoup d'intuition. Avec humainement j'accroche aussi parce qu'en fait sinon c'est pas la peine et qui sont aussi appréciés des éditeurs japonais parce qu'en fait on ne peut pas débarquer dans un entretien avec n'importe qui. Faut savoir qu'il y a aussi des interprètes qui sont blacklistés par certains éditeurs japonais. Donc en fait si vous
D'accord.
débarquez avec un interprète qui n'a pas montré patte blanche auparavant, il y a de fortes chances pour que votre entretien, pardon, se passe pas très bien. Donc en fait, voilà. Il y a aussi des journalistes français qui sont blacklistés. Faut faire attention, hein, faut bien se comporter. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout le processus de validation, de demande. Il faut passer par la porte et pas rentrer par la fenêtre. Voilà, c'est et venir avec un interprète qui, j'irai pas jusqu'à dire qui a pignon sur rue, mais qui en tout cas a une véritable légitimité et qui est connu des services, quoi.
Fin 2019, début 2020, c'est le début de la période de la pandémie.
C'est le début de la merde, ouais.
C'est le début de la merde. C'est juste. Et pourtant, le magazine doit quand même tourner.
Ouais.
Et à partir du numéro 15, donc 30 ans de manga en France, on a constaté qu'il y avait deux changements qui s'opéraient. Donc l'un qui était assez majeur, c'est l'arrivée des numéros, on va dire, thématiques.
Ouais.
Là, 30 ans de manga en France, c'est une sélection des 100 titres indispensables en VF. En tout cas, votre sélection.
La nôtre, c'est une liste avec la subjectivité que
ça comporte. La subjectivité d'Atome. Comme je l'ai dit, nous, on supposait que justement l'apparition de ce type de numéro, il devait être lié un peu à la pandémie de Covid, mais qu'il faut faire quand même tourner la machine.
Complètement. C'est complètement ça.
D'accord.
C'est complètement ça. Je suis parti en Asie pile au moment où le Covid explosait. Je suis parti en février 2020, juste après Angoulême. J'arrive à Tokyo, il y avait déjà une file spécifique pour les voyageurs qui venaient de Chine et de Taïwan. Donc il y avait déjà un truc, ça sortait déjà mauvais. J'ai pu faire tous les entretiens sur place. Là, j'ai pas ramené de Covid. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas eu. Je touche du bois, ça fait du bruit sur le micro, mais voilà. et donc ce numéro qui s'est d'ailleurs passé formidablement bien. Enfin, j'ai un très bon souvenir de comment ça s'est passé avec Yukimura, Arakawa, Higashimura. C'était vraiment super. Et après, bon bah, boum badaboum. Covid, etc. Et donc là, faut réfléchir à des numéros qui vont se faire un peu à froid, quoi, en fait. Et j'ai pas du tout de, à vrai dire, j'ai aucune idée. Je ne sais absolument pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ça, etc. Parce qu'en fait, il était même hors de question de faire des visios à l'époque. Enfin, faut savoir que là, au début, enfin, à ce moment-là du Covid au Japon, c'est en France, c'est un cas. Enfin, dans le monde, c'est un cataclysme. Mais en plus, il y a une gestion du Covid au Japon qui est quand même assez
particulière. Ouais, particulière. Et puis.
Voilà,
je ne sais pas si les éditeurs sont aussi habitués que ça, à faire des zooms.
Non, pas du tout, quoi. Donc, bah, cela dit, même nous, on a fini par s'y mettre. Hein, j'ai très peu utilisé Zoom avant cette période-là, quoi. Et donc, du coup, il a fallu trouver une solution. Et il y avait des idées de faire des espèces de monographies. Et en fait, bon, je ne sais pas, ça m'emmerdait un peu, monographie. Est-ce que je vais réussir à faire 120, 130, 150 pages sur tel ou tel auteur? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon, je sais pas. Et en fait, l'idée de 30 ans de manga en France, c'est une pure idée de facilité. C'est-à-dire que je me dis, tiens,
bon, ça tombait à pic.
30 ans, tiens, on va faire une liste, tiens, machin, etc. Puis on va essayer quand même de faire une couverture originale. Demander à un auteur qui nous aime bien, en l'occurrence Asano, de faire une couverture originale. Il a accepté. Et on a fait cette liste, on a fait ce numéro qui était très sympa à faire. Et on a sollicité aussi des artistes français, ou même des passeurs, puisqu'il y a Jean-Pierre Dionnet qui a parlé aussi d'ailleurs dans le numéro pour parler de Tsutomu Nyei. Et voilà, quoi. Donc, du coup, c'était un numéro, c'était un choix un peu de facilité, sauf que à faire, ça a été assez dur en vérité, parce qu'il a fallu s'arrêter sur des titres, parce qu'il fallait placer le curseur entre des titres qui étaient quand même accessibles, c'est-à-dire qu'il y avait le. Pas parler trop de titres en arrêt de commercialisation, parce que sinon on allait générer une frustration et les gens qui allaient vouloir lire ensuite ces titres-là, ils n'allaient pas les trouver, ou alors sur le marché de l'occasion à des prix prohibitifs, et donc j'avais pas trop envie non plus de partir dans cette direction-là. Et en étant assez cohérent, quoi, enfin cohérent avec ce que nous on appréciait, ce que les plumes d'Atome avaient envie de défendre.
Bon, c'est toujours un jeu d'équilibriste et forcément. Toujours.
Moi j'adore les listes pour ça.
Il va y avoir
bien sûr.
Des déçus et des frustrations.
Mais bien sûr, jeu, en fait. Évidemment, on le sait, mais c'est pareil quand tu fais ton top 10 cinéma de l'année, il y en a qui vont te dire eh, t'as mis cette merde en premier, pourquoi pas lui et, enfin bref, en fait, c'est des débats qui sont interminables.
Bien sûr.
Donc,
mais. Justement, donc je parlais de deux changements. Donc le premier, c'est les numéros thématiques.
Ouais.
Et le deuxième, c'est qu'il y a l'arrivée de couvertures exclusives.
Ouais.
Dessinées par des mangaka.
Ouais. Ça fait un moment qu'il n'y en a plus, ouais.
Ça fait peut-être, ça fait un moment qu'il n'y en a plus, mais il y en a eu.
Ouais.
Et pareil, on se demandait, est-ce que tu dois suivre le même cheminement pour que les entretiens passent par l'éditeur français et puis l'éditeur japonais?
Non, je passais pas forcément par l'éditeur français là. Okay. Je passais directement par l'éditeur japonais. Donc en fait, je m'affranchissais de l'étape de l'édition française, mais je passais quand même par l'éditeur japonais. Donc là, après, en fait, ça dépend de vos relations avec certaines personnes dans certaines boîtes qui vont vous faciliter l'accès à des auteurs et voilà, sachant que les couvertures sont payées, évidemment. Donc c'était comme ça que ça passait. Et puis, c'était souvent des auteurs que j'avais déjà rencontrés auparavant, donc ils me connaissaient, donc c'était plus simple de leur demander. Et c'était rigolo, parce qu'il y en a qui n'ont absolument pas respecté ce qu'on leur avait demandé. Et c'était la surprise. Et parfois, il y en a qui voulaient absolument pas montrer le rough. Donc,
donc tu reçois le dessin.
Ah, c'est comme ça. Bah, c'est super, heureusement. Il y en a d'autres qui ont envoyé plusieurs propositions, demandant de choisir. Mais non, c'est très chouette à faire. Et il y avait toujours un peu cette espèce d'excitation de. Je me souviens pour celle de Kaneko sur le numéro spécial horreur. Donc, moi, j'ai toujours dit, ouais, oui, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs japonais qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux. Et qui parlent de leur travail, montrez pas les visuels avant, machin, etc. Et Kaneko, malheureusement, il avait fait un post sur Twitter, enfin un tweet,
pardon, je l'avais pas vu.
Où il avait mis un détail de la couve qu'il était en train de dessiner, et je me suis dit, ah, mais non, mais pourquoi, non, faut pas montrer et tout. Après, ça va divulgâcher, comme on dit, la couverture quand on va la révéler au lecteur, quoi. Mais non, c'est rigolo. Et puis après, c'est drôle de voir certaines commandes qu'on a faites dans des expositions au Japon. Kaneko, par exemple, le dessin qu'il a fait pour la couverture du numéro spécial horreur, elle était dans une exposition croisée avec Morizumi, où il y avait une exposition entre leurs deux univers, pardon. Puis Hayashi Lakyu, là, quand elle a fait une exposition aussi récemment au Japon, la fin de l'exposition se terminait sur le dessin qu'elle a fait pour Atom. Ouais.
C'est une fierté.
Ouais, c'est cool. Ouais. J'ai demandé à la personne qui était dans l'espace d'exposition de me prendre en photo devant le cadre. Ça m'a fait un petit souvenir.
Est-ce que tu as des retours, justement, des milieux culturels japonais sur Atom? Est-ce qu'ils commencent à connaître la revue en France?
Oui. Bah, déjà, j'arrose beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, les grands acteurs de l'édition au Japon sont abonnés à Atom. C'est-à-dire qu'en fait, même quand ils n'ont pas un auteur interviewé, j'en vois.
Ok.
Donc, en fait, stratégie. Voilà. En fait, depuis le début, les boîtes avec lesquelles je bosse, principalement, même certaines d'entre elles avec lesquelles je travaille moins aujourd'hui, comme Futabasha, par exemple, mais que je continue à abreuver d'Atom. Voilà, mais Futabasha, Shuakan, Shueisha, Kodansha, parfois Ota Publishing, certains tantôt que j'ai pu rencontrer aussi, certains auteurs dont j'ai les adresses aussi directes, je leur envoie en fait Atom. Donc en fait, ils reçoivent Atom, ils sont abonnés à Atom.
Mmh.
Et du coup, ils en parlent entre eux. J'ai des retours parfois. Un scénariste de Tetsuka Liya qu'on avait interviewé dans le numéro spécial Gourmet Manga.
Oui.
Qui est le scénariste de Wishimbo, qui vit en Australie et qui nous écrit assez régulièrement à chaque fois qu'il reçoit un numéro pour nous dire que c'est formidable, bah, c'est génial et tout. Puis lui, il nie un peu le français. Voilà. Santa Inoue aussi, auteur de Tokyo Tribe.
Oui.
Voilà, que lui, j'ai contacté en direct pour le coup parce qu'il n'avait plus d'édition en France. Donc là, j'avais un petit couloir. Ouais. Que j'envoie aussi le numéro, qui les relaie sur ses réseaux.
Qui fait partie de ces auteurs que tu mets en avant alors que.
Ouais.
Bah, en fait, ils sont un peu oubliés.
Ouais, mais là, je dis parce qu'en fait, Santa Inoue, j'ai découvert quand j'ai voyagé au Japon pour la première fois et j'avais été dans sa boutique à Tokyo, fantastique, à Harajuku. Et bon, j'avais des t-shirts Saru, j'avais des t-shirts Tokyo Tribe, tout ça, etc. Ouais. Ça me parle. Enfin, c'est vraiment.
Tokyo Tribe qui est une de mes plus grosses tristesses en France parce que je lisais Tokyo Tribe 2 chez Glénat qui a été arrêté au bout de 5 ou 6 tomes.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et je me souviens, je disais ça, j'étais jeune, mais. Enfin, il y a tout un tome où on est dans le point de vue d'un personnage.
Tout à fait.
Le tome est incroyable.
Ouais.
Ils ont arrêté ça parce que les gens ne devaient pas le lire à l'époque. Les gens étaient. Les lecteurs étaient.
C'est sorti trop tôt.
Voilà,
c'est sorti trop tôt. Je pense qu'il y a un forcing de Fausto maintenant.
Ah, mais.
Ouais, non, mais j'adorerais. Et puis, c'est quelqu'un de très sympa, avec qui je communique directement assez facilement parce qu'il est anglophone. Lui, il est parti aux États-Unis.
Il a vécu aux États-Unis, ouais.
Il a vécu aux États-Unis. Il a eu une expérience un peu douloureuse, ses proches n'ont pas pu aboutir aux États-Unis, donc là il est revenu au Japon. Et oui, je milite beaucoup auprès de certains éditeurs français pour qu'ils l'éditent. Malheureusement, ma voix ne porte pas suffisamment
loin.
Mais il y a un vrai truc, parce qu'il y a une vraie connexion entre le lectorat manga, l'univers du hip-hop.
Il
y a un truc aujourd'hui, c'était trop tôt à l'époque.
Ouais,
c'est sorti à une époque où, je sais pas, des marques japonaises de streetwear, par exemple, n'avaient pas pignon sur rue, une marque comme Bape n'était pas encore trop. Enfin, il y avait toute une culture urbaine japonaise qui n'était absolument pas du tout connue. Et aujourd'hui, forcément, l'émergence de la culture street, le fait qu'on voyage plus facilement, le fait qu'on entende plus facilement parler aussi du Japon, etc., ça pourrait participer à un retour de cet auteur-là.
Tom Kahn, vous avez accordé des facilités de paiement.
Ouais.
Pour ces couvertures, pardon.
Il n'y en a pas trop. Hein.
C'est compliqué.
Non, c'est pas compliqué. Non.
C'est pour ça aussi que ça fait pas forcément systématiquement.
Non. Alors après, il y avait plutôt un problème, c'est qu'en fait, les sommaires sont vraiment goupillés très très tardivement. C'est-à-dire que, en fait, c'est très très difficile d'anticiper quand on ne sait pas qui on va mettre en fait en une d'un magazine. Donc, naturellement, on va pas demander une couverture si on ne connaît pas en amont la thématique sur laquelle on va travailler. Et donc, en fait, tout se lance très très tard.
Mmh.
Il y a plus des problèmes d'agenda que des problèmes économiques concernant les...
D'accord.
Et on n'a pas arrêté de faire les illustrations originales parce que ça nous coûtait trop cher. C'est juste parce que j'ai pas retrouvé, depuis le numéro spécial Baston, une thématique sur laquelle j'aurais pu fédérer plusieurs auteurs.
Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en a eu une,
ouais,
de ces couvertures spéciales, ouais, il y avait vraiment aussi une thématique très forte,
ouais,
qui faisait du sens,
ouais,
même par rapport à la sélection de l'auteur.
Et parfois, c'est même venu, c'est très marrant, j'avais un... C'est parfois venu même du Japon pour la couverture spéciale Baston. J'avais fait donc l'interview des deux auteurs de Kengan Ashura. Et donc là, en fait, je connaissais très bien enfin, je connaissais très bien. Je m'entends très bien, d'ailleurs, encore avec la personne qui s'occupait, parce que maintenant, elle ne s'occupe plus des droits internationaux et de la France, plus spécifiquement chez Shogakukan.
Mm-hmm.
Et là, c'est lui qui me dit. Ah, j'ai fait un spécial Baston, mais tu veux pas que les auteurs de Kengan Ashura ils dessinent un truc?
Bah, si.
Je fais bah ouais, pourquoi pas et tout. Bah, je vais demander et si tu veux, ah, je demande et tout. Donc en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est
ouais, d'accord.
En fait. Et du coup, après, moi j'ai juste dit genre, oui, bah, là, je veux un petit logo atome, il faut mettre ça sur la ceinture du short et tout ça. Enfin, c'est des petites discussions après, qui sont sympathiques.
Mm-hmm.
Voilà. Je trouve que la plus belle, c'est celle de Mochizuki pour le spécial Tokyo. Et je trouve que même c'est limite, à titre perso, je trouve que c'est même une de ses plus belles illustrations.
J'aime beaucoup celle d'Asano aussi.
Ouais, celle d'Asano est chouette. On a eu un petit problème sur l'impression du hardcover où la couleur elle était hyper rosée. Bref. Mais la Mochizuki, ouais, je l'aime beaucoup. Ouais.
Mm-hmm.
J'ai bien aimé aller embêter Stéphane Duval avec ça en lui disant que c'était moi qui avais eu la plus belle illustration de Mochizuki. Et évidemment, il m'a dit genre, ouais. Ouais.
Par dépit. Alors, une critique que l'on peut lire...
Il y en a plusieurs. Hein.
Parfois, sur Internet. Alors moi, je trouve qu'il y a vraiment une critique qui se démarque quand on parle de Atom, c'est le manque de visibilité donnée aux autrices.
Mm.
C'est vrai qu'il y a une surreprésentation d'entretien qui est accordée aux mangaka masculins par rapport aux autrices. Comment est-ce que tu réponds à cette critique?
Bah, je réponds que sur certains numéros, c'était en partie vrai, mais que l'architecture des sommaires, en fait, n'est pas du tout liée à des choix sur lesquels j'ai complètement la main. Il y a des autrices qui sont arrivées très tardivement dans certains numéros d'Atome. Parfois, elles sont arrivées même par grappe. C'est pas moi qui essayais de me racheter une bonne conduite en mettant d'un coup trois ou quatre interviews d'autrices.
T'avais déjà lancé le processus
évidemment.
Des mois à l'avance.
Évidemment. Ouais. Là, je vois qu'il y a l'exemplaire du clan des pots sur la table. Une interview de Moto Hagio, par exemple, j'en ai discuté pendant un an et demi. Donc en fait elle aurait dû arriver plus tôt. Takahashiro Miko pareil, Higashimura Akiko pareil. J'ai des demandes qui sont encore en attente aujourd'hui. Alors après il y a plein de choses, il y a plein de facteurs à ça. Il y a des autrices qui ne veulent pas prendre la parole, donc j'ai attendu parfois des semaines, des mois, voire des années. Voilà, le cas d'Akimi Yoshida par exemple, c'est un cas un peu compliqué. J'essaye d'avoir un entretien depuis que la réédition de Banana Fish a été annoncée, même pas depuis sa sortie, depuis qu'elle a été annoncée, parce que j'aime bien avoir un petit coup d'avance, puis ensuite c'est pas mal, parce que vu qu'on est un trimestriel, ça nous permet ensuite d'avoir un peu d'anticipation sur ce qui va apparaître. Et puis après, il y a aussi des autrices que moi je ne juge pas forcément pertinentes. Je ne vais pas interviewer une autrice juste parce que c'est une autrice. Mmh. Et pareil pour un auteur, c'est pas parce qu'un auteur vend très bien ou qu'il est le dernier Wonder Boy du Shonen Jump que je vais aller l'interviewer en fait. Ça m'intéressera pas forcément. Parfois, il y a des auteurs ou des autrices qui ne m'intéressaient pas trop de prime abord, mais que j'ai appris à creuser et qui ont fini par m'intéresser.
Mmh.
Voilà. Mais après, moi ce que j'aime à dire aussi et à répondre, c'est que aujourd'hui, si on devait placer et lister tous les artistes qui ont été interviewés dans Atome. Déjà, on verrait qu'il y a un nombre assez incroyable de personnes dont on n'a jamais pu lire en fait la pensée, la voix, la parole en France. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, on est les seuls à avoir interviewé autant d'autrices en fait, en vérité.
Moi, je dirais aussi que quand vous interviewez des autrices, c'est pas nécessairement, si je peux dire ça comme ça, aussi des solutions de facilité entre guillemets. Puisque par exemple, je pense que c'est dans c'est le numéro 23, l'érotisme.
Ouais.
Il y a une interview de Asumiko Nakamura, qui est
Ouais.
quand même un grand nom du magazine érotique F.
Ouais.
Là, c'était bon, c'était un peu raccord avec la sortie d'Otsubora aussi.
Ouais.
Voilà, donc je pense quand même que aussi les autrices qui sont représentées dans Atom, ça reste quand même des noms assez ciblés, assez particuliers,
Ouais,
je pense.
bien sûr. Mais après, y a certaines grandes signatures du shoujo qui sont absolument inatteignables aujourd'hui. Vraiment. Mais comme d'autres grandes signatures du shonen aussi, hein. Voilà, il y a des autrices qui sont très complexes. Quand je dis complexe, c'est juste dire qu'il y a parfois un entourage, il y a un très protecteur, avec un éditeur qui ne veut pas forcément que l'autrice soit exposée, ou parfois l'autrice n'a pas forcément envie d'être exposée. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure qui arrive peut-être plus régulièrement pour certains profils d'autrice que pour certains profils d'auteur, en fait, en vérité. Après, l'occasion fait toujours le larron, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, quand il y a la sortie d'un titre comme celui-ci, ça me permet de justifier ma demande d'interview. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette. Moi, j'ai besoin, si je veux obtenir une interview, il faut qu'il y ait un travail d'édition française, en fait, avant. Si ce travail-là n'est pas fait, c'est très très compliqué pour moi d'attraper un artiste. Parce que ce que va me retourner l'éditeur japonais, l'éditeur français dans un premier temps, c'est je suis désolé, j'ai pas prévu de la rééditer, ou j'ai pas prévu de l'éditer tout court, donc je ne passerai pas ta demande. Et si jamais on décide de s'affranchir de la demande à l'éditeur français et qu'on fait une demande directement à l'éditeur japonais, ce qui n'est pas très apprécié généralement, il y a certains éditeurs qui acceptent, mais c'est pas très apprécié, là on va vous dire, mais quelle est son actualité en France? Qu'est-ce que moi j'ai gagné à mobiliser mon autrice pendant 2 heures pour un entretien où vous allez parler de son travail, mais son travail ne va pas pouvoir être lu en fait par les lecteurs français. Donc en fait, parfois c'est un peu compliqué. Quand on a fait Agio, elle avait zéro actu en France. Zéro actu. C'est passé parce qu'en fait la demande elle avait été faite de longue date et donc du coup en fait au bout d'un an à force d'insistance ils se sont dit bon là elle est disponible elle venait je me souviens elle allait chez Shogakukan elle répondait à la télévision japonaise juste avant moi et donc le créneau suivant c'était moi qui l'avais obtenue et donc du coup elle avait d'ailleurs je devais avoir 2 heures finalement j'ai eu qu'une heure parce que en fait l'interview de la télé japonaise a pris plus de temps que prévu enfin. C'est pas qu'elle a pris plus de temps que prévu, c'est qu'elle était pas calée le même jour que moi. Et genre, à l'aéroport, on m'a dit, ah, je suis désolé, mais ton interview va être divisée de moitié, parce qu'en fait, il y a la télé japonaise qui est là avant toi. Donc voilà. Et en fait, on peut pas remobiliser Agio une seconde fois, etc. Dans ces cas-là,
Bon, ça fait quand même
on est
un
obligé
super numéro, un
de
tome
l'accepter.
13.
Ah oui, c'était marrant, mais c'était
Et
un numéro.
je souriais parce que c'est un numéro dont moi j'en garde un souvenir particulier. Je me souviens de la voix où je l'ai lu et je me disais, mais il n'y a aucun des trucs là qui sont liés à l'actualité. C'est un
Ah
magazine
oui,
complètement
Gonagai, ouais, c'était pas du tout.
anti-commercial.
Ouais, Gonagai, c'était pas du tout à
Et,
l'actualité. Bon, après,
ouais, c'est
c'est une sorte
Gonagai
de.
en couverture,
Ouais,
effectivement.
c'est un peu un marronnier aussi, Gonagai, en
Tout à
France.
fait.
Pas Devilman, en revanche, mais bon, moi, c'est un manga préféré, et puis c'est un des meilleurs titres de Gonagai, donc c'est intéressant de le mettre en couverture. Mais non, aujourd'hui, c'est très bizarre ce type de débat-là, en fait, parce qu'il y a une sorte de soupçon un peu constant et pas toujours très fondé, et qui émane parfois de personnes qui ont des biais. Et qui ne comprennent pas trop aussi le concept d'une ligne éditoriale, mais c'est probablement parce que ce ne sont pas vraiment des lecteurs de presse à l'origine, et que ce sont plutôt des fans qui attendent en fait qu'on leur parle de choses qu'ils connaissent, alors que moi j'ai plutôt envie de lire des choses que je ne connais pas, enfin apprendre des choses, enfin en tout cas c'était ma démarche déjà en tant que lecteur, et c'est aussi ma démarche quand je fais des interviews. Et parfois même je pense qu'il y a un vrai travail aussi d'adaptation à faire sur les supports, moi ça m'est arrivé de poser une question à un auteur dont je connaissais la réponse, mais vu que l'interview, je la faisais pour un support qui n'était pas un support spécialisé, je voulais m'adapter parce que je sais très bien que l'audience, en fait, elle n'était pas censée connaître cette réponse-là que moi je connaissais. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faille niveler, en fait, par le bas, votre questionnaire selon le public, mais je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter. Donc, autant sur Atom, j'aime bien, de temps en temps, je pose des questions qui sont bah, des pures questions très niches ou sur des points très précis. Et là, j'ai un peu envie de laisser aux lecteurs et aux lectrices le travail d'aller faire ensuite les recherches Mais parfois, quand je fais des interviews pour d'autres supports, ce qui est quand même assez rare, je réfléchis quand même à une manière de m'adapter. Donc, en fait, il y a quand même, voilà, faut quand même un peu réfléchir à tout ça et que tout s'obtient pas en claquant des doigts et voilà, faut savoir être patient et faut aussi comprendre ce que c'est que le concept d'une ligne éditoriale avec ce que ça implique de subjectivité. Même si on est un magazine généraliste, qu'on le veuille ou non. Parce qu'on ne parle pas que de Seinen, on ne parle pas que de Shoujo, on ne parle pas que de Shonen. Il y avait des numéros qui étaient hyper diversifiés. Il y avait des numéros qui étaient beaucoup plus anglais, mais en fait, ils étaient anglais de manière accidentelle. C'est-à-dire que c'est parce que c'est les gens que j'ai obtenus à un instant T qui se sont retrouvés dans le même numéro. Et puis après, il y a eu des numéros qui étaient beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus hétéroclites. Et là aussi, ce n'était pas un choix, c'est parce que je les ai eus à ce moment-là, en fait. Donc, j'aime bien parler du numéro 14, parce qu'effectivement, on a Yukimura, Higashimura, Arakawa, donc on a des profils qui sont quand même hyper différents. Et c'est vrai que c'est super d'avoir un numéro comme ça, c'est typiquement le genre de numéro quasiment idéal en fait, mais en fait ça n'arrive pas tout le temps. Et il y a des fois des numéros qui sont effectivement accidentellement axés ou anglais. Après, moi j'ai mes tropismes, je suis un grand fan
Bien
des
sûr.
Horreurs, je suis un grand fan des Rougourous, donc les premiers numéros effectivement étaient très très graphiques. Voilà.
Mais on sent aussi une évolution, je trouve, à travers les numéros. On est moins strictement dans les Rougourous ou dans l'horreur, non?
Ouais, peut-être. Les premiers numéros étaient très comme ça, mais c'est parce que, en fait, déjà, ça me plaisait de mettre en avant ça, parce que c'était mis en avant nulle part. Donc, en fait, déjà, il y avait une réponse qui était un peu, le mot est un peu fort, mais quasiment contre-culturel, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, j'adore les shonen, bien sûr qu'il y a certains shoujo que j'adore aussi. Mais, enfin, de toute façon, je ne réfléchis même pas en termes de classification, je réfléchis juste en termes d'affinité personnelle et qu'est-ce qui me parle chez un auteur, chez une autrice, dans une histoire, dans un trait. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, ça m'amusait hein, de mettre des images qui étaient hyper graphiques, de Toshio Saiki, etc., parce qu'on trouvait ça nulle part, en fait. Pour ça, c'est pas un mangaka, c'est un illustrateur, mais voilà. Et puis après, faire des trucs, je veux dire, faire une couverture avec Furuya, Maruo, Kaneko, et les mettre en majesté comme ça, enfin, vu que je le trouvais nulle part, en fait, je trouvais ça nulle part, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire, en fait.
Très bien. Tu as une autre casquette
Ouais,
en
j'ai
plus
des bonnets aussi.
de un autre bonnet. Tu as même plus souvent des bonnets.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est un peu froid là.
Tu vois. Donc tu as un autre bonnet en plus d'être rédacteur en chef de Mad Movies et de Atom, c'est que tu as été nommé au printemps 2021 directeur artistique du pôle Asie du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement en quoi consiste cette position?
Eh ben, consiste en une mission très spécifique et délimitée qui est la programmation Asie du festival, c'est-à-dire les invitations d'auteurs et l'organisation d'expositions. Moi, j'étais connecté au festival depuis quelques années puisque en fait, j'éditorialisais et j'animais toutes les rencontres sur la scène de Manga City avant d'être donc co-directeur artistique. Donc Atom était partenaire de Manga City. Il y a eu plusieurs refontes de Manga City, mais en tout cas, quand Manga City s'est appelé Manga City, il y avait une recherche de partenaires presse de la part du festival. Je connaissais Stéphane Beaujean, je l'avais contacté à l'époque.
Directeur à l'époque.
Voilà. Donc Atom a été le partenaire presse de Manga City. Et dans le deal, je m'occupais, moi, de l'animation des rencontres et de l'éditorialisation des rencontres. Et puis ensuite, Stéphane Beaujean est parti. Il y a eu un moment où plusieurs directeurs artistiques en fait étaient en place. Frédéric Felder, Sonia Deschamps qui est restée jusqu'à la dernière édition, et Stéphane Ferrand qui donc lui devait s'occuper de la programmation Asie, qui devait être le co-directeur artistique en charge du pôle Asie et qui finalement est parti un peu en cours de route pour rejoindre. Enfin, lui était déjà éditeur chez Stanisis, voilà, avec Vega. Et en fait, Vega a été racheté par Dupuis, voilà, donc Vega Dupuis. Et en fait, il s'est, comment dirais-je, focalisé sur ses activités d'éditeur chez Dupuis, avec Vega Dupuis. Et du coup, c'est lui qui m'a proposé le job, entre guillemets, en me disant, bah, écoute, je sais pas, est-ce que tu veux le faire, tout ça. Tu me sembles être la bonne personne pour, parce que on a travaillé ensemble. Moi, j'ai travaillé avec Stéphane Ferrand, plus avec Stéphane Ferrand qu'avec Stéphane Beaujean, parce que lui, il s'occupait de Manga City, donc moi, j'étais en contact avec lui pendant le festival, aussi avant le festival, et naturellement après. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien. Et voilà, il m'a dit, est-ce que tu veux t'en occuper? Donc, moi, j'ai eu un réflexe un peu de... Attends, 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 attends. calmons-nous 2 secondes, en quoi ça consiste exactement, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, la compartimentation du temps de travail avec mes autres activités, il faut que je fasse attention, qu'il n'y ait pas de cannibalisation, tout ça, etc. Et voilà, et en fait, j'ai commencé au pire moment qui soit, c'est-à-dire que j'ai commencé en moment Covid, post-Covid, bizarroïde, où tu peux faire venir absolument aucun auteur. Mmh. J'avais quand même essayé de faire venir beaucoup d'autrices, je tiens à le dire. Et en fait, toutes les invitations sont tombées à l'eau les unes après les autres.
Il y a eu un projet avorté avec Rumiko Takahashi.
Alors ouais, il y a eu un projet avorté avec Rumiko Takahashi qui avait refusé en fait projet d'exposition, très simplement.
C'était elle personnellement.
Ouais, c'était elle. Ouais, oui. En fait, il y a des auteurs qui veulent pas être exposés. Hein. Il y a des auteurs qui ne veulent pas être exposés. Il y a des éditeurs qui veulent pas qu'on fasse sortir les planches originales. Il y a des auteurs qui veulent pas voyager.
Mmh. Ouais. Et ça, le fait que vous ne le disiez pas, le festival, de manière explicite, c'est un choix, c'est
aussi... Oui, bah, parce qu'en fait, c'est de la cuisine interne. En fait, en vérité, là, j'en parle de manière très détendue. C'est pas véritablement un secret, mais en fait, on peut pas communiquer. Ce serait très étrange de communiquer autour d'une exposition qui n'a pas lieu en disant, ouais, elle a pas lieu parce que c'est la faute d'eux. En plus, c'est pas la faute d'eux, c'est simplement un choix de l'artiste.
Parfois, il y a des critiques qui peuvent être un peu faciles. Moi, je me souviens quand, l'année après le prix que Rumiko Takahashi avait obtenu, il y avait des gens qui disaient, bah, regardez l'espace qu'il lui consacre. Et,
ah oui.
Et il y avait, en gros, la sérigraphie, deux, trois mangas, puis c'est tout. Puis ça avait l'air effectivement un peu pauvre par rapport à...
Bah, le festival n'était pas spécialement ravi de ça, hein, faut le savoir.
Et en fait, c'est ça, c'est que...
Bah oui,
c'était pas votre intention.
Non, pas du tout. Enfin, tout le monde avait envie d'accueillir Rumiko Takahashi, tout le monde avait envie d'une masterclass, tout le monde avait envie d'une exposition, tout le monde avait envie d'un catalogue d'exposition Rumiko Takahashi. Mais elle, ça l'intéressait pas trop. C'est tout.
C'est dommage.
C'est voilà. Les négociations avec les auteurs pour les faire venir sont pas. Il y a des auteurs qui ont très très envie de venir et qui, voilà, ça dépend de l'emploi du temps et tout. Puis il y a des auteurs qu'il faut convaincre. C'est un peu comme les interviews. En fait, on les relance. On fait ça. Il y a un moment, on arrête de demander parce que on devient un peu impoli. Donc il faut savoir aussi, comment dirais-je, voilà, se ménager. Puis aussi ménager les éditeurs et les auteurs avec.
Alors il y a des exemples plus heureux où parfois le festival redonne envie à certains auteurs de redessiner. Je pense à Kazuo Gomez.
Ah oui,
qui a eu envie de faire la suite
de
Je suis Shingo, dit-il après.
C'est pas pour autant que c'est facile de faire une exposition avec lui, parce que j'ai essayé de monter une exposition.
On se demandait justement.
Ah ouais, bien sûr.
Est-ce que il y aurait pas la possibilité limite de délocaliser son Roku Shingo en France pour qu'on puisse aussi la vivre nous, ou alors au moins avoir une exposition avec son catalogue, mais comme tu dis, j'ai l'impression que ça a l'air compliqué avec lui.
Ah bah oui, non, bien sûr, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé immédiatement dès que j'ai été en poste. Je voulais absolument faire je voulais vraiment faire Mizuki. Ouais, donc en fait, en patrimoine, il y a eu d'abord Mizuki parce que il y avait un centenaire. Parce que le festival ne l'avait jamais fait, parce que ça me semblait être l'évidence absolue. Et ensuite, il y avait Umez. Donc, Umez, j'ai eu des rendez-vous avec son éditeur, etc. Il y a eu des discussions, il y a eu des longues discussions. Tout ça, c'était au moment où on pouvait retourner au Japon. Donc là, j'étais retourné au Japon avec visa. C'était le moment où le pays se rouvrait un petit peu, mais il fallait quand même montrer patte blanche, etc. Donc, c'était déjà assez compliqué de venir. J'ai fait plusieurs voyages comme ça, voilà, où télécharger une application, il fallait rester dans le même périmètre pendant 48 heures. C'était hyper anxiogène, hein, vraiment. Et si jamais je contracte le Covid, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Donc, en fait, on part pour bosser, et en plus, on va bosser dans ces conditions-là. Donc, c'est très, très compliqué. Et en fait, Umez, qui est un auteur immense, c'est aussi un auteur avec, non pas des exigences, mais avec des humeurs un peu spéciales. Et en fait, c'est très, très compliqué. Lui, en plus, il sortait d'une exposition qui a été très très couvert au Japon, qui en plus l'a mis d'une certaine façon sur la carte de l'art contemporain. Donc en fait, il était quasiment plus envisagé comme une sorte d'artiste plutôt que comme un mangaka, enfin comme un artiste plutôt pas comme une sorte, mais que comme un mangaka. Donc il était un peu en train de planer en fait quand nous on l'a sollicité. Donc c'était effectivement ce Roku Shingo, l'exposition à Roppongi, dans l'exposition, etc., le très gros dispositif et tout. Et en fait, d'une part, nous, à Angoulême, on n'a pas de lieu capable d'accueillir une exposition aussi déployée, parce qu'on est limité aussi par les espaces qu'on a, et Angoulême, c'est une ville qui a quand même des infrastructures qui sont les siennes, et c'est difficile de pousser les murs. Et puis surtout, c'était très compliqué, c'était en ce qui concerne le volet des planches originales. Voilà. C'est souvent un point qui est un point où ça coince, et là, c'était impossible de le convaincre, à vrai dire. Donc, moi, j'aurais adoré le faire venir, faire une grande exposition rétrospective, avoir une salle à côté ou à part, autour de son travail, justement, sur le nouveau Shingo en peinture, tout ça, etc. Mais j'ai fait quoi? Peut-être 3 rendez-vous avec des discussions.
Oui, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré en plus.
Ouais, j'ai rencontré. Ouais. Et je ne l'ai pas vu quand je suis retourné au Japon, parce que Covid oblige, son visiteur était hyper protecteur, etc. Même si lui, apparemment, s'en foutait complètement, sortait sans masque et tout ça. Ou alors avec un vieux masque et tout ça, parce que on sait où il habite, et bref. Et il est connu comme le loup blanc dans le quartier. Et voilà, du coup, c'était Je n'ai pas baissé les bras, parce que je baisse jamais les bras, mais le truc, c'est que pour moi, cette exposition-là n'a quasiment que de sens aujourd'hui s'il lui vient, en fait.
S'il lui vient, ouais.
Parce que il y a vraiment un écho différent quand on a un auteur de cette envergure-là qui se déplace pour une expo de patrimoine. C'est très bien de faire une exposition Mizuki, c'est très bien de faire une expo Tezuka, évidemment. C'est très bien de faire une expo Tsuge, mais c'est quand même dommage de le faire venir en sous-marin et que il soit très peu exposé, qu'il n'y ait pas de masterclass, etc. Même si c'était un dossier qui était...
Oh, c'était super qu'il soit là quand même.
C'était super.
Ouais.
Et l'expo était magnifique. Et puis c'était un dossier qui était très épineux, Tsuge, mais voilà, là, si Umes vient, vous avez vu le personnage, faut le mettre sur scène, quoi. Vraiment, enfin, je dis, non pas pour l'exposer comme une bête de foire, c'est parce qu'en fait, il faut que les gens voient aussi physiquement à quoi ressemble la personne qui a créé ça,
complètement,
et qu'ils puissent l'entendre, etc. Ouais. Quoi.
Et comme tu le disais dans un de tes éditos, et tu en as un petit peu parlé aujourd'hui, le but de Atom, et je pense que c'est aussi ton but en tant que directeur artistique, c'est aussi d'aller à la rencontre de mangaka qui ont fait l'histoire de la culture avant qu'il ne soit trop tard,
de les
rencontrer,
c'est exactement ça,
de les faire partager aux gens avant que ce soit trop tard.
Ouais.
Voilà, évidemment, on souhaite une très longue vie à Kazuo Umes, mais il n'est plus
tout
jeune.
Non. Bah, moi, je m'en suis aperçu avec le temps, en fait, en constatant que beaucoup de personnalités que j'ai pu interviewer, en fait, passent l'arme à gauche les unes après les autres, quoi. Donc là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une véritable urgence. Et que ce soit pour une interview, enfin une urgence, ce n'est pas une urgence vitale, ni même une urgence culturelle, mais c'est important, je pense, quand même,
de c'est important.
Voilà, de laisser une trace.
Tout à fait.
Et j'espère pouvoir faire ça aussi avec le festival, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Ikegami Doichi cette année, par exemple.
Il y a une formule qui a été en quelque sorte mise en place durant la période de Stéphane Bonjean, qui est d'avoir, si tu veux, une exposition d'un mangaka très contemporain et une exposition un petit peu plus patrimoniale qui a droit à son propre catalogue. Est-ce que c'est une formule que tu comptes poursuivre?
Ouais. Bah moi, j'ai même mis un petit peu l'accélérateur. Je déteste parler à la première personne, mais pour le coup, c'est vraiment moi qui ai proposé, en fait, ça. C'est effectivement avoir un renforcement de la programmation manga, puisque si le festival est venu me chercher, c'est aussi pour ça. Et c'était très difficile en année une pour moi en direction artistique, parce que les invitations de Jun Miyazaki, c'était pas possible, alors que j'aurais adoré faire quelque chose autour de son travail. Mais en année une, comme ça, il y a eu effectivement Mizuki, on a quand même fait venir sa fille, parce que voilà, c'est quand même elle aujourd'hui qui est la garante de la mémoire et qui peut prendre la parole sur le sujet. Il y avait Fujimoto, bon, c'était absolument impossible de le faire venir, malheureusement, mais on a dépêché une équipe sur place à Tokyo qui a fait des vidéos inédites, tout ça, pour pouvoir ensuite les diffuser dans le cadre de l'exposition. Et moi, j'ai bondi sur l'opportunité Masaaki Yuasa, parce que je voyais que c'était un Japonais qui voyageait. Il voyageait en festival, il était à Venise, tout ça, etc. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. En plus, il y a Matsumoto qui a un peu travaillé sur le film et tout. Je suis sûr qu'on peut avoir quelque chose de modeste, entre guillemets, mais d'un peu transversal. Et on peut essayer d'avoir au moins cet invité japonais, projeter le film en avant-première, faire une petite exposition. Modeste, encore une fois, mais au moins avec quelques dessins originaux de Matsumoto, avec quelques storyboards, etc. Et puis là, il y avait déjà une sorte de triptyque qui s'est dessiné.
C'est vrai.
Et puis le triptyque, j'ai pu le renforcer sur la deuxième année, parce que là, le Covid était un peu derrière, les éditeurs étaient un peu plus détendus, et j'ai relancé un dossier que j'avais activé déjà il y a quelques temps, qui était un dossier Attaque des Titans, parce que ça tombait bien, l'auteur avait terminé, L'auteur était OK pour voyager. Il avait à l'époque comme horizon un voyage à New York, à la Comic-Con. Donc ça tombait plutôt bien. Et même si lui, il voulait, c'est pas quelqu'un qui, c'était la première fois qu'il voyageait pour son départ à New York, la deuxième fois qu'il voyageait de sa vie pour son départ en France. Donc c'était un dossier un peu compliqué. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir. Et je vais essayer de poursuivre ça. Je ne suis pas certain de pouvoir y arriver, mais en tout cas, on va
Triptyque.
essayer. C'est un triptyque avec à chaque fois une exposition qui est une exposition très fédératrice, entre guillemets, et peut-être blockbuster, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et puis deux autres expositions, une exposition plus patrimoniale et une exposition d'un auteur ou d'une autrice très importante et qui serait localisée à Franquin. En fait, j'aimerais bien me déployer comme il y a quelques mois sur l'Alpha. Sur Franquin et sur le musée, déjà parce qu'en plus, en termes de parcours, ça nous fait naturellement remonter en centre-ville. Donc en fait, il y a une sorte de dispositif comme ça, enfin une sorte de parcours, un cheminement pour le visiteur qui se dessine et que je trouve pas inintéressant. Alors après, tout le monde n'est pas obligé de faire ses expositions dans l'ordre, hein, Alpha
Bien sûr,
Franquin, Bennett,
oui, bien sûr.
ce qu'on veut. Et puis si j'ai la possibilité de me déployer ailleurs, je le ferai aussi. Ça va dépendre des opportunités, des réponses. Et voilà. On m'a mis à ce poste pour ça, donc j'essaye de m'amuser aussi, de prendre du plaisir et d'essayer aussi de capter des choses qui sont dans l'air du temps, parce qu'en fait, ça va très vite dans le manga. Il y a des titres et des auteurs qui sont parfois à la mode, qui en fait. En l'espace de 6 mois, 1 an,
Là, c'est fini.
retombe un peu. Donc, il faut savoir capturer la foudre. Il faut savoir aussi peut-être anticiper en remettant sur le devant de la scène des auteurs qui étaient jugés un peu out. Moi, je sais que j'ai parlé à certaines personnes de Ikegami. Ils m'ont dit, ah, Ikegami, t'es sûr, mais c'est pas un peu ringard et tout. Je fais, mais attends, mais tout, c'est ringard, c'est pas du tout ringard et tout. Je dis, puis regarde, il y a une actualité, il y a Trigun Game, réédition, le Sanctuary. Je lui dis, il y a un truc,
Mais il y a
etc.
peut-être un truc quand même un peu old school. Moi, je peux comprendre
Old
que tu fais
school, oui,
des ça, tu vois.
mais il est
Ouais,
complètement old school. Il y a quelque
mais
chose de suranné aussi dans
ouais.
son travail, mais
Et son
après,
dessin est incroyable.
son dessin est incroyable. Et puis en plus, moi j'étais hyper content, c'est qu'il y avait des personnes vraiment dont je ne pensais pas qu'elles allaient pardon, s'intéresser à cette exposition-là et au style d'Ikegami et à son travail qui ont été complètement attrapées, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y a aussi un équilibre à trouver. C'est un peu comme un magazine, il y a un équilibre à trouver dans la programmation. Cette année, l'équilibre, il était bien au niveau des générations des auteurs qui étaient représentés,
Tout à fait.
auteurs et autrices, avec des. Voilà, c'était pas mal. En termes d'univers, c'était quand même assez sombre. Très clairement, l'attaque des Titans, Ikigami, Junji Ito et Torikai, c'est quand même pas la joie de vivre incarnée. Enfin bon, c'est quand même pas, je veux dire, pas eux en eux-mêmes qui sont en plus toutes et tous des personnes très sympathiques, mais on est quand même dans des univers. Voilà,
Ouais, c'est
plutôt
lourd.
plutôt sombre, voilà. Que ce soit Torikai ou même Isayama dans des registres très très différents, voilà, c'est quand même des récits graves et voilà, des œuvres qui nous poursuivent, etc. Donc, mais curieusement, la remarque n'a pas été faite, en fait, donc tant mieux, mais voilà, il y a aussi cette idée dans la programmation de toute façon, on essaye toujours de contenter à peu près tout le monde. De travailler de la manière la moins égoïste possible, parce que là, pour le coup, c'est pas comme un magazine, c'est. Je me contredis un peu en disant ça, parce que je disais il y a
Non, mais
quelques
c'est pas la
mois.
même figure en fait. Là,
Voilà.
t'as
Le
une
geste n'est pas le
position
même. Voilà, c'est
institutionnelle.
ça. Le geste n'est pas le même, et il y a plein de facteurs à considérer. C'est des séries aussi d'échecs successifs, de nouvelles prises de décision, de possibilités alternatives, enfin, c'est plein de choses, et c'est. À la fois très amusant et assez épuisant quand rien ne se met en place au bon moment. Mais ouais, j'espère en tout cas pouvoir continuer sur cet élan et proposer les mêmes choses et avoir à chaque fois beaucoup d'invités puisque j'ai bien, voilà, je pense que vous vous en êtes aussi rendu compte et puis vous êtes lecteur aussi, ce qu'apprécient comment dirais-je, les personnes qui sont sensibles au manga, c'est aussi la possibilité de rencontrer et d'entendre les gens qui écrivent et
Bien
dessinent les
sûr,
histoires qu'ils
bien
lisent.
sûr.
Donc, ça, c'est une exposition et l'auteur invité avec. C'est vraiment la configuration idéale, je pense.
Alors, de manière très égoïste, j'espère qu'un jour, il y aura une exposition de Kazuichi Hanawa. à Angoulême. C'est vraiment, je rêve en fait chaque année de voir son nom apparaître.
Ce serait bien qu'il soit mieux édité
et
aussi.
C'est ça aussi, ouais. Faudrait qu'il soit mieux édité ouais. Parce que, à part le Lézard Noir qui est ressorti dans la prison, tous ses autres titres sont indisponibles.
Oui, bien sûr, ouais. C'est complètement chez Casterman
aussi. Ouais. Ah, moi, j'aimerais voir quelqu'un de
peut-être
plus accessible. Ouais.
Ah oui,
bon. Aussi,
non mais c'est
je pointe du doigt hein, ouais. Le volume de Le Clan des Peaux
qui m'appartient.
Non mais c'est ça fait aussi partie des réflexions qui pour le coup en fait sont assez similaires aux réflexions avec ce qui se passe dans le magazine, c'est-à-dire que c'est difficile de justifier et de porter une exposition quand il y a un travail éditorial un peu comment dirais-je faillible, c'est pas le mot, mais qui est pas tout à fait complet en France. Mm-hmm. Donc Mizuki, il y a aucun problème. Mizuki est très bien édité, il est installé, il a pris Angoulême, etc.
Donc, Agio, dans le cas d'Agio, on sait qu'elle va être très bien éditée puisque en tout cas,
exactement.
Femme a déjà Bruno nous a déjà dit qu'elle allait avoir d'autres titres qui allaient arriver en plus.
Ah, ouais. Alors,
et on serait quand même très en colère qu'elle ne soit pas nommée. Alors on sait que c'est pas du tout de ton ressort.
Ah, non. Au coup, il y a une vraie indépendance
entre le jury.
Ouais.
Et toi, directeur artistique?
Moi, je fais partie du comité de sélection série, et là, pour le coup, je peux vous garantir effectivement qu'il y a absolument, il y a une opacité totale entre les membres du jury et les influences extérieures, et surtout des influences émanant des éditeurs. mais en tout cas, oui, une exposition, il y a à la fois, il faut qu'il y ait le concours de l'éditeur français, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un éditeur français qui soit OK, si, parce que s'il y a un auteur ou une autrice qui vient, ça demande, il y a des frais. Alors, les frais sont partagés et puis
c'est intéressant.
Et aussi là pour ça. Donc il y a une mobilisation de ressources humaines de la part de l'éditeur français qui est quand même aussi parce qu'il ne va pas laisser son auteur ou son autrice seul avec l'équipe du festival. Et puis il y a aussi, il faut qu'il y ait de la presse aussi. Donc bon, il y a tout un comment dirais-je, une organisation, un dispositif qui se crée autour de l'invité et qui doit se créer en synergie. Il faut qu'il y ait idéalement, pas forcément de l'actu chaude, mais il faut quand même que la personne soit suffisamment éditée, parce que si c'est pour générer une frustration chez les visiteurs en disant c'est super ce que vous avez vu, vous n'allez rien pouvoir lire. Voilà, il y a un seul titre qui a été publié, tout ce que vous voyez.
Voilà, rien.
Donc c'est très compliqué. Et ensuite, il faut évidemment que c'est le plus important, l'accord de l'éditeur japonais et évidemment de l'auteur. Et quand je dis accord, c'est il y a plusieurs types d'accords. Il y a oui, ok pour une expo, mais pas d'originaux. Non. Sauf pour des auteurs qui travaillent
en numérique,
où là c'est un peu différent. Il faut, à mon avis, réfléchir, et j'ai déjà une petite idée pour l'édition prochaine sur des configurations innovantes, c'est pas le mot, mais qui peuvent un peu changer vis-à-vis de ces auteurs qui aujourd'hui travaillent en numérique, qui sont un peu plus contemporains. Mais voilà, enfin, il y a plein de conditions qui expliquent pourquoi un auteur accepte, pourquoi son éditeur accepte, et pourquoi le festival peut monter une exposition. Sans compter le fait que parfois c'est compliqué de retrouver le matériel aussi. Sur le manga, c'est un peu plus centralisé, mais je sais que sur les expositions comics, quand les originaux sont dispatchés chez des collectionneurs, c'est coton.
Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission en compagnie de Fausto Fasulo. Nous aimerions te demander, Fausto, pour terminer cette discussion, de regarder les magazines Atom qu'on a mis devant toi. Et peut-être de nous dire, est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui te tient à cœur parce qu'il évoque en toi un souvenir particulier, un souvenir que tu aimerais peut-être partager avec nous?
Je vais m'en donner plusieurs. Donc, pour moi, le meilleur souvenir que j'ai d'interview, c'est clairement l'interview de Kazuo Umez. Que j'ai faite chez lui, et je mets de grosses guillemets parce qu'en fait il ne vit pas dans cette espèce de maison
coupée. Enfin, je me demandais si
non, il vit pas dedans.
D'accord.
Okay. Il vit pas dedans. Il vit à Kichijoji, effectivement. Il vit dans ce quartier-là, mais il a un appartement en fait dans lequel il vit, et cette maison, donc la Umez House, c'est vraiment une sorte de maison vitrine. Voilà, c'est son Wonderland à lui. Donc là, c'est clairement
c'est
le.
Bizarre.
C'est très étrange, mais de toute façon, mais il y a.
C'est même pas un atelier pour lui.
Non, même pas. Je voudrais pas pousser la comparaison plus loin, mais il y a peut-être des parallèles assez intéressants à faire entre Michael Jackson et Umez, mais
qui sont délicats à faire, mais
voilà. on fera ça un autre jour. Mais Umez, c'est peut-être l'interview la plus mémorable, je pense. J'ai adoré l'interview avec Higashimura parce que c'était de loin, je pense, la personnalité la plus cool
Ah
que
ouais.
j'ai rencontrée. Ouais, vraiment dans son atelier avec ses assistants et tout, et elle par terre en train de fumer des clopes.
Ok.
Vraiment très très ambiance, très très sympa.
Ok.
Et il y a une interview que je retiens pour sa bizarrerie et son côté assez désagréable. C'était l'interview avec Minoru Furuya. Très très étrange interview où il avait pas trop envie de répondre, où il était parfois limite trollesque, où Sébastien Ludman, mon traducteur, a dû sortir les rames, et moi je mitraillais de questions, j'essayais de rebondir, et lui était hyper laconique, et je vois qu'il s'amusait un peu aussi.
En même temps, quand tu publies un titre comme Saltiness,
Oui,
je
complètement. Non,
pense
mais
qu'on sait à quoi ça
il
ressemble.
ressemble très. Il fait partie de ces auteurs qui ressemblent à ces mangas. Il y a des auteurs comme ça en fait qui ressemblent très clairement au travail qu'ils font. Hein. Maruo ressemble clairement à ces mangas.
Je
Furuya
sais pas ce que ça veut dire.
ressemble clairement à ces mangas. Bah, je te laisse imaginer à quoi il peut ressembler. Et voilà.
Bah, comme Mangataro qui doit aussi
Ouais.
bien ressembler.
Mangataro.
Ah oui.
Alors là, interview dont j'ai fait la demande depuis des années et des années et qui a été acceptée une fois et qui a jamais pu être faite malheureusement. Bref, très très
C'est
compliqué.
sur
Mais
l'attente.
voilà. Mais Oumez, ouais, Oumez, souvenir assez exceptionnel déjà d'entrer dans un endroit où même l'éditeur japonais qui m'accompagnait n'avait jamais été et qui du coup l'a fait aussi halluciner. Puis je suis reparti effectivement avec un souvenir parce que c'est une sorte de maison-musée donc qui ressemble effectivement à ces mangas et dans laquelle il a un peu comme certains mangaka qui ont des studios avec tous les produits dérivés, c'est le cas de Hiro Yaoku et tous ses produits dérivés ou ce genre de choses. Lui, il a effectivement une sorte de c'est comme une sorte d'exposition permanente, quoi, et puis la maison est assez spectaculaire. Et en fait, en partant, voilà, j'avais déjà raconté cette anecdote, je crois, mais il m'a dit très clairement de prendre ce que je voulais dans la maison, quoi. Et en fait, moi, j'étais un peu gêné, et je lui dis, mais je peux prendre, mais quoi, quoi, je prends l'argenterie, je prends quoi? Et en fait, après, il m'a amené dans une espèce dans l'entrée où il y avait plein de figurines, des Sofubi, donc soft vinyle, des jouets en plastique, c'est un peu de la vulgarisation de dire ça, mais voilà, vous saurez à quoi ça ressemble en faisant quelques recherches. Et il m'a dit de prendre ce que je voulais, et en fait, j'aurais pu partir avec un sac et plein de trucs dedans, sauf que, voilà, je suis un peu poli. J'en ai pris un très gros, néanmoins. J'ai pris une créature d'Ultraman, Alien Baltan, parce qu'il avait dessiné
Il avait
Ultraman,
décidé,
il avait
ouais.
dessiné une version d'Ultraman. Et j'ai quand même pris un gros truc, en fait, en vrai. Voilà, ce n'est pas un bon souvenir que parce que je suis reparti avec quelque chose, parce que
J'ai cru que tu avais pris un Makoto Chan en fait.
non, j'ai un Makoto Chan que j'ai acheté, qui est chez moi, mais
D'accord,
que j'ai
ok.
acheté un grand. Mais non, c'est Alien Baltan que j'ai
Ouais.
pris. Et puis l'interview était, ouais, il a encore très bonne mémoire. Il était un peu fatigué quand même. Donc 2 heures d'interview vers la fin, c'était un peu dur pour lui. Mais oui, c'est un souvenir qui était très très stimulant. Enfin, c'est un souvenir, pardon, qui est très stimulant. Et vu que c'est un auteur auquel je suis particulièrement attaché, j'étais très content de le rencontrer. Et en plus, je trouve que l'interview est pas mal parce qu'il a dit toutes des choses intéressantes et des précisions biographiques qu'on n'avait pas forcément. Et du coup, j'en suis sorti content et j'en ai encore un souvenir assez ému. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, Fausto, pour cette discussion passionnante.
Ouais,
Merci à
merci
vous.
beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, l'épisode d'Inside est à présent terminé. On vous remercie d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter. On se retrouve très vite pour un épisode de Bunko. Merci pour votre fidélité. Au revoir.
Au revoir.
Salut. Bunko,
Bunko.
Bunko.
Bunko,
Bunko.
Parfait.